Total Business School. Après 10 ans passés à Paris à la tête de la prépa Orlhomme, qui prépare plus de 2000 étudiants au concours d'entrée des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs et de Sciences Po, j'ai entrepris de relever le défi de hisser Tal Business School au rang des meilleures business schools de la région. C'est un peu dans cette dynamique que nous avons choisi de recevoir M. Berrebi, qui nous a fait l'honneur de sa présence ce soir. Excusez-moi, je suis très émue de parler devant vous. Donc, à l'heure où Tal Business School accueille sa première promotion d'étudiants, dont l'ambition est de devenir les managers influents de demain, israéliens, il nous semble on ne peut plus important de leur montrer qu'il est aujourd'hui possible de concilier une vie des affaires responsable et réussie avec une perspective de vie personnelle épanouie et engagée, pourquoi pas. Et c'est dans cette dynamique que je vais laisser la parole à M. Berrebi.
Bonsoir à tous et à toutes. Donc je n'ai pas de micro, j'espère qu'on m'entend bien jusqu'au bout. Ah super, nickel. Je vais parler, je ne sais pas combien de temps, une demi-heure, 45 minutes. Et après le but c'est qu'on ait un événement un peu interactif et que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse effectivement échanger ensemble. Donc, gardez vos questions dans un coin et on essaiera de répondre à tout, les attachés. Donc, le sujet de la conférence ce soir, c'était évidemment de savoir si on peut concilier Torah et business. Alors, c'était un peu rigolo parce qu'on voit le titre de la conférence, on voit ma photo à côté, donc on comprend un peu la réponse avant même que je démarre. Mais en fait, moi, ce dont je voulais vous parler d'abord, on va attendre peut-être un instant. Voilà, donc moi ce dont je voulais vous parler d'abord, c'est effectivement en fait il y a un grand mythe qui date des 100-200 dernières années, qui est là en fait pour nous dire que la vie d'homme moderne, la vie d'homme dans le monde des affaires ou dans la vie de tous les jours, en dehors de la synagogue, en dehors du Beit HaMidrash, etc., est une vie difficile pour un juif. Est une vie incompatible avec la vie d'un juif. Alors, ce que certains ont essayé de faire, ça a été de modifier le judaïsme. Donc, on va créer des nouveaux mouvements, des mouvements libéraux, réformés, conservateurs. On va faire plein de choses, plein de changements pour effectivement essayer de dire, au lieu effectivement de faire en sorte à ce que on arrive à se fusionner avec le monde, on va essayer, nous, de transformer les lois qui régissent le judaïsme pour réussir, effectivement, à vivre un nouveau judaïsme qui serait compatible avec la vie moderne. Ça, c'est le grand mythe. Et c'est un mythe auquel je croyais aussi quand j'étais jeune, puisqu'en fait, bien qu'étant un élève d'école juive, donc moi, j'ai étudié à Paris dans des écoles juives classiques, une école qui s'appelle Or Yosef, qui était dans le 19e arrondissement, du CP jusqu'en 3e, et ensuite j'ai été à Maïmonide, à Boulogne. En fait, même dans un environnement comme ça, même dans un environnement où on nous apprend un peu la Torah, où on nous apprend un peu le judaïsme, où on apprend plein de choses, on a toujours en fait une énorme crainte qui est l'après-bac. Qu'est-ce qui va se passer après le bac? Qu'est-ce qui va se passer quand on va rentrer dans le monde des affaires? Alors, il va avoir le problème du Shabbat, de la... Alors, il va avoir le problème du chômage. Ça, en France, attention... on va rentrer dans un monde qui nous veut du mal, mais on va effectivement avoir des challenges qui sont le Shabbat, la Kashrout, etc., etc. Et en gros, on va rentrer dans un monde qui n'est normalement absolument pas compatible avec notre vie. Donc, on est dans un cocon quand on est dans une école juive, on est dans un cocon le Shabbat quand on va à la synagogue. Mais par contre, quand on va sortir dehors, quand on va rentrer dans le monde des affaires, quand on va devenir employé de société, quand on va devenir étudiant d'université, là, on va faire face à un monde super hostile et qui est donc incompatible. Ça, c'est le mythe, d'accord ? J'ai eu la chance, pendant mon année de terminale, de rencontrer un homme qui s'appelle Jean Guetta, qui était un grand homme d'affaires, qui avait fondé une société qui s'appelait Sahari, qui était une société de logiciels de comptabilité, passée de 2 à 600 personnes. Aujourd'hui, la société s'appelle Sage. Enfin, c'est Sage qui a racheté la société Sahari France. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré, c'est une longue histoire, j'en ai parlé à d'autres conférences. Et je l'ai rencontré, j'ai rencontré donc un homme d'affaires qui était là à manger kasher, à étudier, à porter une kippa, à se couvrir la tête, et à faire partie de la vie de tous les jours, du monde des affaires, à être proche de plein de présidents d'entreprises, à être à un moment même PDG d'une entreprise cotée en bourse, etc., etc. Et donc j'ai découvert une personne au début, et pour moi c'était un peu nouveau, parce que je me suis dit, ma mince, je connais pas moi beaucoup d'hommes d'affaires. Enfin, si je connais des hommes d'affaires qui sont religieux, ben ils ont un hyper kasher, ils ont une boucherie, ils ont quelque chose qui est lié au judaïsme. Mais moi, je connais pas d'hommes d'affaires pratiquants qui, en fait, fait partie du monde des affaires. Et là, finalement, c'était en plus le monde de l'informatique qui était le monde auquel je faisais partie. Moi, j'étais déjà journaliste depuis l'âge de 16 ans, journaliste informatique. Et en gros, quelqu'un qui fait partie de mon monde et qui vit en fait son judaïsme pleinement. Et sans aucun scrupule et sans aucune honte. Donc j'ai rencontré cette personne. Et cette personne m'a présenté d'autres personnes comme lui, comme ça. Et en fait, cette personne-là est devenue mon mentor, est devenue mon premier associé. Et c'est comme ça qu'au final, j'ai reçu mon petit coup de boost. Au début, mon petit coup qui disait « Jérémy, tout est possible dans ce monde. Il n'y a absolument rien qui t'empêche d'être un juif pratiquant dans ce monde-ci. Absolument rien. » C'était ce que je me suis dit au départ. Et si aujourd'hui je vous parle ce soir, et si je donne plusieurs conférences et je me montre dans les journaux, c'est uniquement, mais vraiment uniquement, pour montrer cela. Pour montrer qu'il est possible de faire partie de ce monde des affaires et d'être pratiquant à 100%. Donc, la première chose dont je vais vous parler d'abord, c'est de savoir finalement quel est le but d'un juif dans le monde des affaires. Est-ce que finalement, la vie d'un juif, c'est au moment où on se trouve à la synagogue, au moment où on se trouve en train d'étudier devant un livre de Torah. Et quand on sort, bah là, on est dans le monde hostile, dans le monde qui ne fait plus partie de ce monde-là. Ou alors, est-ce qu'il y a une autre vision des choses? Et en fait, ce qui est peu de juifs savent qu'il y a deux types de lois dans le judaïsme. Il y a ce qu'on appelle les lois Ben Adam Lamakom, qui sont les lois qui sont entre l'homme et Dieu, la Makom c'est Dieu, et Ben Adam la Chavero, qui sont entre l'homme et son prochain. Donc en fait, les lois dans le judaïsme sont divisées en deux. Les lois Ben Adam la Makom, Shabbat, la Kashrout, la Tfila, la prière, etc., etc. Et d'un autre côté, les lois de relation au prochain. D'accord ? Il est absolument indissociable, ces deux groupes de lois sont absolument indissociables. Je ne peux pas dire, moi, je vais être chômer Shabbat et je ne vais pas faire attention à mon prochain. Et je ne peux pas dire, je vais être faire attention à mon prochain et à la paix dans le monde sans m'occuper de Shabbat et Kashrout. Ces deux sujets sont indissociables. Nous, aujourd'hui, bien sûr, on va parler de la sujet Ben Adam Lachavero, le sujet de son prochain. Au final, le sujet de la relation à son prochain, c'est quelque chose qui n'est pas uniquement de se dire, je ne dois pas faire du mal à mon prochain. Ou je dois lui donner de la tzedaka quand il a faim. D'accord ? Ce n'est pas uniquement un sujet de chesed. La relation à son prochain, c'est quoi ? C'est qu'à chaque fois que je vais avoir une interaction avec quelqu'un, je vais avoir des lois qui sont écrites, dont on va parler, qui vont régir la manière dont je vais me comporter avec lui. Je vais faire attention à ne pas lui mentir. Je vais faire attention à si je suis un vendeur, à lui présenter le produit de la meilleure manière qui soit, sans en rajouter, je vais lui vendre au bon prix, je vais faire plein de choses comme ça dont on va parler, qui sont en fait des lois qui vont régir 100% de notre vie de tous les jours. 100% de notre vie de tous les jours. La manière dont on se comporte quand on va chez l'épicier, la manière dont l'épicier doit se comporter avec chacun de ses clients, la manière dont le chauffeur de taxi avec qui j'ai parlé avant de venir dans cette conférence doit se comporter avec ses clients, la manière dont il doit comptabiliser, utiliser son compteur, etc., etc. Et donc, quand vous dites ça, quand vous dites qu'il y a des lois, donc des mitzvot, des lois qui sont des lois assez et loacées, donc il y a des mitzvot qui sont des obligations et des choses à ne pas faire, quand vous dites qu'il y a des mitzvot à faire quand on est dans le monde du travail, bah finalement, vous voyez le monde du travail différemment. Vous voyez le monde du travail comme une arène dans laquelle on se trouve et qui est là, tout comme dans une synagogue, et qui est là pour être un lieu pour nous permettre de faire au mieux notre service divin, notre service de juif. Quand on voit ça comme ça, quand on sait qu'il y a des lois qui existent, quand on sait qu'on doit les étudier, quand on sait que, effectivement, ces lois sont aussi importantes que Shabbat, la Kashroute, et Hanouka, et Yom Tov, et Kippour, les lois sont aussi importantes que tout ça, quand on sait ça, bah finalement, on vit une vie où, du matin au soir, du réveil jusqu'à la dernière minute du coucher, on est là en train de vivre sa vie de juif pratiquant, de juif religieux, de juif tout court. Il faut savoir que le Talmud traite, via des centaines et des centaines de pages, de ces lois dont je suis en train de vous parler. Ces lois du monde des affaires. Donc en fait, la question qu'on a posée dans cette conférence était, est-ce que Torah et business est compatible ? C'est pas que Torah et business est compatible, c'est que la Torah prévoit à 100% comment le business doit être fait. À 100%. Toutes les types de relations, la relation avec les employés, etc., etc. Et le Talmud traite via des centaines de pages. Donc vous avez principalement, vous avez trois volumes qui s'appellent Baba Batra, Baba Kama, Baba Kama, Baba Batra, Baba Metzia, Baba Batra, qui sont donc trois volumes de Talmud qui sont principalement destinés aux lois relations commerciales, relations des affaires, qui sont des très très gros volumes, des gros pavés. Et derrière tous ces volumes du Talmud, il y a des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de livres consacrés à des petits points particuliers qu'on peut avoir dans le monde des affaires. C'est qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, de payer son employé à temps, d'accord ? Ou de payer son fournisseur à temps, d'accord ? Et il y a des livres qui font 400 pages, 500 pages, 700 pages sur un petit sujet et qui vont aller décrire les différents, les petits détails de ces choses-là. Et il est absolument impossible de respecter, en fait, ces lois du judaïsme dans le monde des affaires si on n'étudie pas ces lois. Je vais vous dire pourquoi. En fait, il y a, en fait, dans le monde, il y a un nouveau trend, comment dire, une nouvelle mode, on va appeler ça, qui est une nouvelle tendance, qui est le sujet de business ethics, d'accord ? L'éthique dans les affaires. Et donc, effectivement, il y a des conférences, il y a des gens qui vont parler d'éthique dans les affaires. Et l'éthique dans les affaires, c'est quoi ? C'est effectivement, soit un peu honnête par-ci, fais attention au produit que tu vends, essaye de faire un produit qui ne va pas pourrir la santé des gens, etc., etc. Bon, moi, j'ai assisté et je parle avec des gens et je conseille des gens qui sont spécialisés sur ces sujets-là. Et finalement, les sujets ne sont pas très, très nombreux, en fait, autour de business ethics. Un, il y a beaucoup, beaucoup de questions encore, et les sujets sont très, très nouveaux. Donc, ces gens-là sont en train de chercher des réponses un peu partout, mais ils ne savent pas où les trouver. D'ailleurs, moi, je conseille un grand groupe français, et la responsable de ce qu'on appelle l'engagement sociétal, qui est en fait ce qu'on appelle la personne qui travaille sur tous ces sujets de relations avec les autres, d'éthique, etc., m'a dit, Jérémy, je ne sais pas par quoi commencer. Elle rejoint en fait ce poste-là dans début janvier. Elle m'a dit, Jérémy, je ne sais pas par quoi commencer. Par quoi on commence ? C'est quoi business ethics ? On n'a pas ce sujet-là. C'est un nouveau sujet dont on parle dans le monde, mais finalement, on a presque pas de livres à consulter. Pas de conférences, etc. Donc, ce sont des nouveaux sujets. Mais en fait, ces sujets-là sont décrits dans le Talmud, sont décrits dans le Shulchan Aruch depuis 2000 ans. Enfin, le Shulchan Aruch depuis 500 ans. Le Shulchan Aruch, donc, qui décrit les lois, les lois de la halakha, en fait, ce qu'on est censé appliquer, a une partie du Shulchan Aruch qui s'appelle Choshen Mishpat. La partie du Shulchan Aruch qui s'appelle Choshen Mishpat est uniquement dédiée aux lois concernant le monde des affaires, à la relation avec les autres. Alors, quand je dis le monde des affaires, je vais étendre, d'accord ? Le monde des affaires, c'est quoi ? C'est même la relation avec son voisin, d'accord ? J'ai acheté une maison, je veux faire construire une petite pièce à côté, mais ça va faire de l'ombre à mon voisin. Est-ce que j'ai le droit de le faire ou j'ai pas le droit de le faire ? D'accord ? Donc, en fait, le monde des affaires, finalement, c'est pas uniquement monter des startups et avoir des grosses boîtes. C'est on a des relations financières avec n'importe quelle personne de notre entourage, d'accord ? Donc, le Shulchan Aruch a une partie, une des quatre parties du Shulchan Aruch, est uniquement dédiée à ces sujets-là. Et pendant, en fait, des siècles, depuis les 2000 dernières années, Il faut savoir que les marchands juifs qui parcouraient le monde, alors il faut savoir que les marchands juifs avaient un énorme avantage par rapport aux autres marchands, c'est pour ça qu'ils étaient, les marchands juifs sont réputés pour leur succès, en tout cas depuis 2000 ans, c'est qu'en fait les marchands juifs étaient lettrés, d'accord? En fait, grâce justement à l'étude de la Torah et au Talmud, les marchands juifs ont pu, enfin les juifs ont été les premiers à avoir comme obligation de devenir des gens lettrés. Et donc les marchands juifs, effectivement, arrivaient à faire plein de choses que d'autres types de peuples ne pouvaient pas faire. Mais ces marchands juifs passaient en permanence leur temps à envoyer des lettres à un grand rav, à un grand rabbin ou à un beddin, à un comité rabbinique, pour aller poser des questions sur comment traiter telle ou telle affaire. Comment traiter le cas où j'ai donné à un ami, j'ai donné à un homme ma marchandise pour qu'il me le transporte par bateau. Son bateau, suite à une erreur du capitaine, son bateau est rentré dans un iceberg à fond. Bon, je sais pas, iceberg, c'est une autre histoire. Voilà, son bateau a coulé. Qui est responsable? Est-ce qu'il doit me rembourser ma marchandise? Est-ce que, alors que je l'ai payé pour ça, est-ce qu'il doit pas me rembourser? Etc. Et en fait, ces lettres-là, ces questions-là, vous en avez dans la Gniza du Caire. Donc, ceux qui connaissent, donc la Gniza du Caire, c'est un lieu où en fait était enfoui plein, plein, plein de lettres et de réponses de rabbanim qui a été retrouvé au Caire il y a quelque temps. Dans la Gniza du Caire, vous avez en fait la plupart des questions qui sont posées par les gens. C'est pas est-ce que ce truc-là est kasher, badatz ou glad kasher, est-ce que Kippour commence à cette heure-ci ou cette heure-là. C'est comment finalement les gens vont régler en fait leur vie professionnelle. Et c'était ça en fait la vie de tous les jours. Il faut savoir qu'à Babylone, à Babel, où a été écrit le Talmud Babli, il y avait en fait, la plupart des rabbanim étaient spécialisés sur les sujets liés au commerce et à la relation entre eux. Donc, comme j'ai expliqué, on n'est pas en train de parler de sujets d'éthique de business. On est en train de parler de lois qui vont régir n'importe quelle de nos interactions. Et on ne peut pas dire, je vais comprendre tout seul. Moi, je sais très bien qu'il ne faut pas mentir. Je sais très bien qu'il ne faut pas tricher, je sais très bien qu'il ne faut pas voler. On pourrait se dire ça, et c'est comme ça qu'on pense en général. Mais très très souvent, dès qu'on démarre dans le monde des affaires, dès qu'on devient commercial, on se retrouve avec des problèmes. Donc moi, j'ai des commerciaux qui me posent des questions en permanence. Je suis agent immobilier, je sais qu'il y a une énorme fuite dans l'appartement. Est-ce que je dois dire oui, à l'acheteur ce qui se passe? D'accord? Ou alors, je suis un commercial, j'ai un produit. Mon patron a fait une plaquette et dit qu'il y a une fonctionnalité, mais je sais qu'elle n'est pas encore disponible. Est-ce que j'ai le droit de la présenter comme ça? Etc., etc. Et au final, les choses deviennent de plus en plus fines. Les choses deviennent de plus en plus fines. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un mode en disant est-ce que je vais voler ou je vais pas voler? On est dans un mode, c'est comment je vais gérer ma relation avec l'autre personne et comment effectivement je vais pouvoir lui parler pour respecter la loi de la Torah. Et il faut savoir que toutes ces lois-là, toutes, c'est-à-dire que toutes les questions. Moi, en fait, il y a plein de gens qui viennent me voir avec des questions. Ils posent des questions en pensant que c'est des questions nouvelles. D'accord? Alors, tu vois, moi, voilà, je suis agent immobilier, ou je suis ci, ou je fais ça, etc. Ils me posent comme ça une question. Et à chaque fois, en fait, moi, je dis, regarde, là, je n'ai pas la réponse, maintenant, tout de suite. Mais je leur sors, je leur trouve un livre avec exactement la même question datée d'il y a 700 ans, avec la réponse complète, basée sur le Talmud, basée sur le Kim la Torah, etc. Exactement la même question. Donc, en fait, nous. Nous devons, dans cet univers-là, ne pas penser nous-mêmes que nous sommes en train de faire des affaires justement, mais nous devons nous plier à ce qu'on appelle le Ratzon Hashem, c'est-à-dire que la volonté divine. Dieu nous a mis dans la Torah des lois concernant tous ces sujets-là, et nous devons pas dire, moi je connais mieux les êtres humains, moi je sais comment être honnête, nous devons dire, ok, moi je veux comprendre. Comment Dieu voit l'honnêteté dans le monde? Comment ça fonctionne? Et il faut savoir que Dieu n'a pas placé n'importe où en fait ces lois-là. La paracha Titro est la paracha où on parle des 10 commandements. D'accord? Les 10 commandements sont cités dans la paracha Titro. C'est là où Moshé descend du mont Sinaï avec les 10 commandements et avec une grande partie de la Torah orale qui sera une partie écrite et une partie orale plus tard. Et la paracha juste après. C'est la paracha Mishpatim. C'est quoi la paracha Mishpatim? C'est des relations entre hommes. Si tu as ton bœuf qui a encore né un bœuf, qui a encore né mon bœuf, qui doit payer? Si tu as, il y a les relations, comme j'ai expliqué, payer son salaire à temps. Il y a les relations avec, tu as frappé quelqu'un, il a perdu ça, il a perdu son œil. Qu'est-ce que tu dois lui faire, etc. Et en fait, immédiatement, avant même qu'on parle de Kashrout, avant même qu'on parle de Kippour, avant même qu'on parle de Soukhot, de Pessah, etc. Là, immédiatement, Moïse, Moshe descend du Har Sinaï et démarre. Allez les gars, je vais vous expliquer comment on régit la loi, les lois entre les humains. Et c'est vraiment, je sais pas à quel point on se rend compte de ça, mais le monde juif aujourd'hui oublie complètement ces lois-là. Oublie complètement. Parce qu'il y a le folklore, effectivement, du judaïsme autour, et de la synagogue, et de la cachroute, et de toutes ces choses-là, oublie complètement que ces lois, finalement, ont autant d'importance que les autres. Donc, comme j'ai expliqué, Hachem a donné, Moshe et Hachem ont donné, dans la Torah, ont donné ces lois, et les ont expliquées immédiatement après les 10 commandements, ce qui montre, effectivement, leur importance. Donc, comme j'ai expliqué, on est dans une, à la synagogue. On doit prier, on doit se concentrer effectivement sur Dieu et sur l'entité à qui on va demander des choses pour notre vie. On va demander le succès, on va demander la réussite, on va demander la santé, on va demander des choses qui sont des choses extrêmement importantes. Et on dit même d'ailleurs, le Chazon Ish disait que la prière vaut beaucoup plus que la Hishtadlout. C'est-à-dire que la prière, la force de la prière, a beaucoup plus de résultats que l'effort que l'on va mettre dans son travail. D'accord? Ça paraît un peu fou comme ça, mais en tout cas, pour montrer l'importance des choses. Mais comme j'ai expliqué, on sort de la synagogue, on rentre dans le monde des startups, on rentre dans le monde dans lequel je fais partie, le monde des financiers, le monde des entreprises, des entrepreneurs, des employés, etc. Et immédiatement, en fait, on ne change pas de monde. À un moment, je pensais que j'avais plusieurs vies. Je pensais que j'avais plusieurs vies. Et en fait, au final, non, 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 c'est une seule vie. Il faut juste être harmonieux dans l'ensemble de ces sujets-là. Et d'ailleurs, c'est important, on voit que beaucoup enlèvent leur kippa en sortant de la synagogue. D'accord? On va à la synagogue, on met une kippa et on sort. On va à la synagogue. Alors bon, en France, c'est un autre sujet. Moi, je mets une casquette en France. Mais comme si, en fait, on sort de la synagogue et finalement, en fait, notre relation avec Dieu maintenant va changer. On descend d'un niveau. Mais alors qu'au final, c'est maintenant, c'est presque maintenant qu'on va avoir besoin de plus de kippa pour se rappeler qu'on a quelqu'un au-dessus de nous qui va vérifier l'ensemble des actions que l'on va faire. Alors, il faut savoir que même si on connaît ces lois, donc même si on apprend les lois, d'accord? Donc, tout à l'heure, je vais vous donner quelques exemples de ces lois, d'accord? Même si on apprend ces lois, étant donné qu'on est intéressé nous-mêmes par le résultat, est-ce que je dois payer mon employé à temps? Donc, moi, j'ai lu le truc, je suis non, non, en fait, il y a une possibilité de faire en sorte que je lui paye plus tard, c'est pas grave, je dois payer mon fournisseur d'abord, etc. Très 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 souvent, en fait, dans les sujets financiers, on a effectivement une tendance à pencher les choses potentiellement de notre côté quand on n'a pas l'honnêteté d'esprit. Et donc très très souvent, en fait, dans ces lois, il faut connaître ces lois, mais très souvent, en fait, il faut juste avoir un rabbin à qui pouvoir poser ces questions pour quand on a une question précise, on pose à quelqu'un d'autre, même si on connaît la halakha, même si on a étudié la Gemara, on a étudié le Shulchan Aruch, on va aller poser les questions pour que effectivement, la personne, enfin le Rav, puisse nous donner un avis clair et sans intérêt particulier. De la même manière, s'il y a des conflits entre deux personnes, d'accord, entre deux personnes, ce qui arrive souvent, d'accord, le patron avec son employé, le fournisseur avec son client, etc. Quand il passe sur son personne, là, de la même manière, on doit aller dans un bat-din, d'accord, qui c'est pas un bet-mishpat, donc on parle pas de En Israël, on parle d'un bet din, donc ce sont des rabbanim, ce sont des gens qui ont étudié toute leur vie, qui ont étudié en général 20-30 ans uniquement, enfin principalement ces sujets de Rosh Hashanah dont je vous parle pour pouvoir répondre, pour pouvoir juger des sujets de celui-là. Et en fait, on va voir ces gens-là et qui vont aller effectivement régler les conflits. Moi, je me suis retrouvé très souvent, enfin très souvent, heureusement pas très souvent, je me suis retrouvé 3-4 fois face à un bet din parce que j'avais un conflit avec une personne et j'ai dit, regarde, ça sert à rien, on se casse la tête, on a chacun un point de vue différent, et c'est très très souvent comme ça. Tu n'es pas un voleur, je ne suis pas un voleur. Venez, viens, on va au Beit Din, on va voir comment le Beit Din va trancher les choses. Et à chaque fois qu'on est sorti du Beit Din, on a eu une surprise sur la décision. C'était absolument pas comment on imaginait, absolument pas comment on pensait, etc., etc. Et c'était absolument magnifique. Donc, très très important de savoir qu'il y a effectivement des gens qui sont là pour régir l'ensemble de ces lois du monde des affaires. Donc j'ai expliqué tout à l'heure que la paracha titro et la paracha mishpatim se suivaient, d'accord? Donc les 10 commandements et la paracha mishpatim, mais il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que dans le Beth Amikdash, dans le temple de Jérusalem, donc en fait on faisait des sacrifices, d'accord? Les Kohanim faisaient des sacrifices du matin au soir. Mais à côté du Beth Amikdash, collé au Beth Amikdash, il y avait le grand Sanhédrin. Le grand Sanhédrin, ce qu'il faisait, c'était une assemblée de sages, d'accord, qui allaient trancher des cas, comme je viens de vous parler maintenant, c'est-à-dire des cas de conflit entre personnes. C'est-à-dire que au même endroit où il y a la sainteté la plus importante pour les Juifs, d'accord, où on est en train de faire un service qui finalement on ne comprend pas exactement comment ça fonctionne, on est en train de faire des sacrifices, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Il y avait collé quelque chose de complètement matériel qui est bien, on va résoudre les conflits entre personnes. Donc de la même manière, pour bien montrer que les deux choses sont un tout. On ne peut pas être là dans un monde où on est un peuple de prêtres, d'accord? Un peuple de gens qui faisons Shabbat, Kashrout, etc. Et d'un autre côté, dans un monde où il n'y a pas de justice entre les hommes. Il y a un commentateur qui s'appelle le Smag, qui disait il y a 800 ans, en fait, qui commentait un passouk qui est dans Tzfania. Donc Tzfania, c'est un des prophètes qui parle de la fin des temps. Et le passouk dit comme ça: Shérit Israël lo yaasu avla velo yedabeu chazav. Donc les restants d'Israël, les restes d'Israël, ceux qui restent d'Israël, ne commettront pas de corruption et ne diront pas de mensonge. Donc en fait, le Smag explique là-bas, il dit, quand le Mashiach viendra, quand la Géoula arrivera, la rédemption, enfin chacun dit, utilise le terme qu'il veut, les nations vont comprendre pourquoi les Juifs ont été choisis comme peuple pour représenter Dieu sur terre. Pourquoi? Parce que ce sera un peuple qui ne ment pas, qui ne triche pas et qui n'est pas corrompu. Dur. Et en fait, le Smag, ouais, je vois des grimaces. On est là pour apprendre. Et donc le Smag, évidemment, en fait, quand il parle de ça, il dit, ben, tant qu'on n'y arrive pas à être comme ça, ben, en fait, finalement, il faut surtout pas que Dieu fasse venir le moindre Mashiach, parce que les autres peuples diront, mais attendez, vous voyez, Dieu, il s'est en train de s'associer à ces voleurs, à ces escrocs, à ces... ce que vous voulez. D'accord? Donc, en fait, on a une vraie responsabilité de faire honneur à cet événement, qui va être un événement dont tout le monde va être au courant, d'accord? On a maintenant assez de réseaux et de choses pour communiquer partout, mais on aurait été au courant même sans smartphone et même sans tout ça. C'est un autre sujet. Et donc les nations vont voir, et en fait, à ce moment-là, il va se passer quelque chose, et en fait, on dit effectivement, les peuples vont comprendre ce qui se passe, et vont comprendre pourquoi le peuple juif a été choisi. Certains commentateurs précisent qu'en fait, la rédemption, la Géoula, sera uniquement destinée à ces gens-là. C'est-à-dire que, malheureusement, Chas v'Shalom, les gens qui ne profitent pas de ça, c'est pour ça qu'en fait le passouk parle des restants d'Israël, les gens qui resteront seront ceux qui parleront justement et qui ne seront pas corrompus. D'accord? Donc, ce qui nous met un peu de stress, d'accord, sur la responsabilité qu'on a et sur effectivement l'importance qu'on doit donner à ces choses-là. Toujours dans Yeshaya, un peu quelques prakim avant, il est écrit Betzion bemishpat tipadé. Israël sera sauvé par la justice. C'est par la justice, l'honnêteté, la droiture que Israël sera sauvé. Alors, on est très très souvent, moi je vois hein, comment en tout cas, les gens vivent autour de moi, effectivement, comme j'ai expliqué. On est très, très souvent en train de mettre l'accent, effectivement, comme j'ai expliqué, sur le monde de la synagogue, le Shabbat, la cacheroute et toutes ces choses-là. Et après, on va sortir dans le monde des affaires et on va dire business is business. D'accord? Business is business. Tous les coups sont permis. On peut faire ce qu'on veut. C'est normal, on est dans le monde des affaires. Et d'ailleurs, mes copains font pareil. Le monde fait pareil. Alors pourquoi pas moi? D'accord? On va avoir en permanence, on va avoir cet attrait qui va aller nous dire, attention, le monde des affaires n'a rien à voir avec notre judaïsme. On doit juste être, ne pas voler. C'est-à-dire qu'on doit juste ne pas tirer le sac à main de la vieille dame dans la rue. Et encore, certains vont trouver des excuses pour le faire. Il faut savoir que on parle, dans la paracha de la semaine dernière, c'est la paracha qui parle de Yaakov et Lavan. Donc Yaakov, donc Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yaakov est l'ancêtre de tout le peuple juif. Autant Yitzhak est l'ancêtre du peuple juif, mais c'est aussi l'ancêtre d'Esav, donc du monde, on va appeler ça romain chrétien. Autant Avraham est l'ancêtre du peuple juif, mais aussi l'ancêtre des musulmans et des chrétiens, donc via Israël. Mais Yaakov, c'est notre père qu'à nous, d'accord ? C'est notre grand-père. Yaakov, c'est celui qu'on a appelé Israël, d'accord ? Donc, quand on dit nous sommes des enfants d'Israël, nous sommes des enfants d'Yaakov, d'accord ? C'est juste ça le sujet. Et on dit que, pourquoi la Torah nous raconte des histoires de personnes, d'accord ? Aucun intérêt de raconter des histoires de personnes. On n'est pas là pour lire des livres d'histoire. Franchement, on peut raconter des histoires fausses, on peut raconter plein de choses. Pourquoi on nous raconte des histoires de personnes ? C'est qu'on doit se rapprocher au maximum de la vie des patriarches. C'est-à-dire qu'on doit étudier le moindre petit détail de leur vie et faire en sorte à leur ressembler. Donc Yaakov a été quelqu'un qui a vécu à côté de son frère Esav. Donc Esav, tueur, voleur, tricheur, revient un jour de la chasse et a très faim. Et à ce moment-là, effectivement, Yaakov, je passe vite cette partie-là parce que ce n'est pas la plus importante pour ce que je veux parler. Donc Yaakov va lui acheter son droit d'aînesse en échange d'un plat de lentilles. Bon, une scène un peu bizarre, pareil, qu'il faut étudier à part. Un peu plus tard, Yitzhak, qui aimait Esav, en fait, qui n'arrivait pas à imaginer, en fait, c'est-à-dire qu'on m'a dit que Yitzhak n'arrivait pas à imaginer que Yaakov, le petit gars qui reste dans sa tente toute la journée, allait devenir le leader du prochain peuple juif. D'accord ? Il voyait Esav, qui en fait ne montrait pas à Yitzhak ce qu'il faisait, il voyait Yitzhak, un homme fort, un homme vigoureux, etc. Il disait, voilà, c'est lui le leader, il a une tête de roi. Et donc Yitzhak appelle Yaakov, et appelle Esav et veut lui donner des brachot, d'accord ? Des bénédictions. À ce moment-là, Rivka, la femme de Yitzhak, entend cette affaire et fait en sorte à ce que Yaakov prenne la bénédiction à la place. Yitzhak était aveugle, n'a pas vu que c'était Yaakov, etc., etc. Je passe les détails, mais en gros, Yitzhak et Esav veut ensuite tuer. Ben, Yaakov a pris la bénédiction d'Esav et Esav reçoit quand même une bénédiction, une plus petite. Et Yaakov part. Et à ce moment-là, Yaakov est rejoint par le fils de Esav, qui s'appelle Eliphaz. Et Eliphaz lui dit, mon père m'a demandé de te tuer. Bon, en gros, je vais te tuer. Et Yaakov lui dit, regarde, ne me tue pas. Par contre, il est écrit que un Ani Chashuv Kemet, quelqu'un qui est pauvre, est considéré comme mort. D'accord ? C'est un sujet en soi. Et donc, ben, je te donne tout ce que j'ai. Absolument tout. Et maintenant, je suis considéré comme mort. Donc, tu n'auras pas menti à ton père en disant que tu m'as tué. Et donc, Yaakov se sauve la vie de cette manière. Va ensuite, selon les commentateurs, va étudier la Torah, enfin, va étudier chez Shem. Ce n'était pas vraiment la Torah, parce que la Torah n'avait pas été donnée, mais c'était un genre de philosophie comme ça autour de Dieu, auprès de Shem, pendant plusieurs années. Et ensuite, arrive chez Lavan. Donc, il arrive chez Lavan. Lavan, c'est le frère de sa mère, d'accord ? Il arrive chez Lavan, c'était là qu'en fait ses parents lui avaient demandé de chercher une femme. Et il arrive chez Lavan en remarquant une femme très belle, qui s'appelle Rachel, et demande à Lavan de pouvoir épouser cette femme. Mais il n'a absolument rien. Il n'a absolument rien pour payer. À l'époque, il fallait payer pour se marier. Bon, aujourd'hui aussi, mais c'est pour les robes et les salles. Il n'a absolument rien, et donc Lavan va dire, Yaakov et Lavan font un marché, pendant 7 ans tu vas travailler pour ma fille. Après 7 ans, le mariage a lieu, au lieu de donner sa fille Rachel, Lavan va donner sa fille Léa. Et donc, Yaakov s'en rend pas compte, enfin s'en rend compte le lendemain matin, il faisait très noir à l'époque, il n'y avait pas de lampadaire dehors. Et non, pour comprendre un peu le contexte. Hein. Et il se rend compte, ah, ma main, je ne me suis pas marié avec la bonne. En tout cas, celle que j'avais prévue. Il va revoir la vanne. Alors, il va voir la vanne et la vanne, il dit, mais qu'est-ce que tu me fais? C'était pas ce qui était prévu. La vanne dit, non, chez nous, on ne marie pas les petites avant les plus grandes. Il faut savoir que c'est devenu une halakha, ça. Et la source, c'est la vanne. C'est un autre sujet. Enfin, c'est une halakha, c'est une recommandation de la Gemara. On ne marie pas les plus jeunes avant les plus âgés. Et là, ils refont un autre marché. Encore, d'accord. Donc maintenant, pendant 7 ans, je vais retravailler. Par contre, dans 7 jours, je vais pouvoir me marier aussi avec Rachel. Effectivement, donc, Yaakov, pendant 14 ans, travaille pour Lavan, pour juste, enfin, c'est déjà beaucoup, avoir Rachel et Léa comme épouses. Pendant ce temps-là, en fait, on voit très très peu dans la Torah, on voit très très peu de détails sur la relation entre Lavan et Yaakov. Mais en fait, la relation entre Lavan et Yaakov était absolument exécrable. C'est qu'en fait, Lavan était un grand roublard. Lavan essayait d'arnaquer, on l'a vu quand il a arnaqué avec sa fille au départ, mais essayait d'arnaquer Yaakov en permanence. Et à un moment d'ailleurs, Yaakov, à son départ, lui dit « Tu as changé mon contrat 1000 fois. » C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait quelque chose, qu'il allait avoir une rémunération, puisqu'en fait, après les 14 ans, Yaakov est resté auprès de Lavan pour travailler et a fait un deal avec Lavan en disant voilà, moi je vais prendre les bêtes tachetées et toi tu vas prendre les bêtes. Enfin, en gros, ils ont fait un deal particulier. Et en fait, le Midrash et en fait les Psukim montrent que Lavan est revenu plein de fois sur cet accord. Quand il voyait que Yaakov était en train de s'enrichir, il disait non, 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 viens, on va le changer encore. Attention, on est en train de changer encore. Et en fait, et Lavan est considéré en fait dans la Torah comme le roublard. L'escroc par excellence. Et ce qu'a fait Yaakov pendant ce temps-là, donc notre ancêtre, Israël, il est resté absolument droit. C'est-à-dire que l'attribut qu'on attribue à Yaakov, on appelle ça une mida en hébreu, est la mida de Emet, la mida de vérité. C'est-à-dire que malgré le fait que Yaakov était avec un homme qui était un grand escroc, on dit que c'était d'ailleurs le chef des sorciers. C'était un grand, grand sorcier, c'était un grand idolâtre, c'était un grand voleur, etc., etc. Malgré le fait qu'il ait été plongé là-dedans, Yaakov est resté droit absolument du début à la fin. Et ça, c'est l'histoire principale de Yaakov. Donc en fait, nous, on peut se dire, oui, mais, donc, on rentre dans le monde des affaires, on va dire, oui, mais ça a changé. Avant, les gens étaient plus sérieux. Ou avant, le monde allait moins vite, avant ci, avant ça. Et donc, on va aller se trouver des excuses pour être un peu moins droit. On va essayer aussi de, comme on vit dans une entourée de gens qui sont des voleurs eux-mêmes, je vais dire, bah, on va les voler nous-mêmes. Et en fait, on voit que Yaakov a fait exactement le contraire. Et la particularité de Yaakov, ça a été justement de rester droit dans cet environnement hostile. Et c'est en fait l'une des raisons pour laquelle il a reçu le nom de Israël. C'est Israël, c'est Yachar, quel? Droit avec Dieu. D'accord? Il y a une autre explication, c'est le Israël, c'est Sar, un prince de Dieu. D'accord? Mais en tout cas, Yachar, elle, est le pshat, finalement, de ce qu'on est en train de dire. Il est resté droit devant Dieu. C'est-à-dire que Yaakov, à n'importe quel moment de son histoire, n'a jamais failli. Finalement, donc c'est ça l'histoire de Yaakov. C'est ça l'histoire du début du peuple juif. Donc finalement, nous, on regarde ça. On peut se dire, OK, belle histoire, sympa, d'accord? Ou alors se dire, OK, donc finalement, mon histoire à moi, et à chacun d'entre nous, ça va être d'être un Yaakov dans ce monde-ci. Ça va être de rester droit dans un monde de brutes. Ça va être ça notre plus grande mission. Il y a quelque chose qui est intéressant de voir que l'homme donc le plus escroc de la Torah s'appelle Lavan. Blanc. D'accord? Il est blanc. Alors pourquoi en fait il est blanc? Pourquoi en fait c'est rigolo? Et en fait, moi j'ai remarqué en fait dans mon expérience professionnelle, c'est qu'en fait vous allez avoir très très rarement des voleurs, mais qui ont un badge de voleur, qui vont dire moi je suis un voleur. D'accord? Ils vont, chaque voleur, chaque tricheur, chaque menteur va se trouver un tirouts, comme on dit en hébreu, prétexte. Une manière de présenter les choses pour dire non, 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 mais moi, ce que je fais, en fait, c'est droit. Moi, je vole les riches, d'accord? Un peu à la Robin des Bois, comme ça. Je vole les riches, donc j'ai le droit. Je passe des détails, je vais pas tout dire ce soir. Et donc, en fait, Lavanne, l'homme le plus escroc, était le blanc. Et au final, quand on est dans ce monde-là, on a en permanence, comme j'ai expliqué tout à l'heure, une énorme attirance vers le fait de justifier ses mauvais actes, ses mauvaises actions. Enfin, ses mauvaises. Non, on ne les considère pas mauvaises. Au début, on fait quelque chose qui paraît borderline. On l'a fait une fois, on l'a fait deux fois, troisième fois, on a oublié. Fait partie de notre vie. Et donc, c'est Lavanne qui, en fait, est considéré dans la Torah, donc le fameux blanc, est considéré comme, enfin, est considéré même dans la Haggadah de Pessah, quand on dit Ve'ishe Amda, donc quand on chante Ve'ishe Amda dans la Haggadah, on parle ensuite de Pharaon et on parle de Lavanne. On dit que Arami Oved Avi, quand on parle de un Araméen a voulu faire tuer mon père, donc on parlait de Yaakov, on parle effectivement de Lavanne. Et donc, il n'y a aucune raison d'être sur Terre, aucune raison d'être sur Terre, à part le fait de devoir être droit et juste. Il n'y en a aucune autre. Au début, moi, en fait, je me suis rendu compte de ça, en fait, en travaillant à l'époque où j'étudiais pas beaucoup, d'accord? Quand j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que le monde des affaires était très, très, très dur. Très, très, très dur. Tes amis sont finalement plus tes amis. Ils vont dire, Jérémy, l'amitié et le business sont deux choses différentes. Tu te rends compte que la relation avec les gens, effectivement, est beaucoup plus complexe que ça. Et tu te rends compte que finalement, tu es effectivement pris en permanence dans un énorme combat. Pas au début. Au début, quand tu étudies pas, en fait, tu n'es pas en train de réfléchir comme ça, qu'on est en train de réfléchir. Tu n'es pas en train de dire, oui, moi, je vais rester droit, je vais rester truc. Non. Tu dis, comment je vais réussir à survivre? J'essaie de rester droit, mais comment je vais réussir à survivre et à avoir ma parnassa alors que tout le monde est en train de tricher, tout le monde est en train de tricher sur leurs chiffres, etc. Et j'essaie de comprendre. Et moi, finalement, en fait, c'est ces questions-là, et c'est mon expérience professionnelle, qui a fait que j'ai voulu rentrer finalement dans l'étude de ces choses-là, dans l'étude de ces textes, et dans l'étude d'essayer de comprendre le sens de la vie. Parce que finalement, on passe, à moins qu'on soit Avraham à Bnei Brak, d'accord, et rabbin, on passe quasiment toute notre vie à travailler. La plupart de notre vie, on passe à travailler. Donc je dis, moi, je ne peux pas comprendre que Dieu nous ait mis, je peux pas comprendre que Dieu nous ait mis dans ce monde pour qu'on ait une heure de synagogue le matin, une heure le soir, et le reste du temps, on souffre. Enfin, on souffre. Certains réussissent. Mais en tout cas, on est là dans le combat, dans quelque chose qui n'a rien à voir. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, qu'on se sent toujours blanc, on a effectivement un énorme problème à Tel Aviv et en Israël aujourd'hui, avec, et beaucoup de Français sont touchés par ça, avec les gens qui travaillent dans le Forex ou les options binaires. J'espère que personne n'en fait partie ici, ou qui le feront plus partie demain. Et en fait, moi, c'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé. D'accord? D'abord, j'ai été étudié la halakha sur l'ensemble des raisons que les gens se trouvaient pour pouvoir faire des métiers aussi pas droits. D'accord? Donc, en fait, j'ai écouté les taanot, les gens qui travaillent dans ce secteur. Je me disais, oui, mais on a le droit de voler certaines personnes. Oui, mais je vole pas puisque c'est la personne qui décide. Oui, mais si, mais ça. Donc moi, en fait, j'ai été étudier chaque Tahana et j'ai trouvé rien du tout. Et avant, on m'a dit, oui, mais il y a des rabbins qui permettent. Alors j'ai été chercher les rabbins. Et j'ai pas trouvé. Alors si, j'ai trouvé des noms. Et après, j'appelle le rabbin. Mais vous avez vraiment donné autorisation à ça? Mais jamais. Mais qui a sorti ce truc-là? Essayez de me retrouver qui a sorti cette rumeur. Donc et en fait, comme je l'expliquais sur Lavanne, on a toujours l'impression d'être blanc. On a toujours l'impression de dire oui, mais moi, je vais travailler là-dedans. Et grâce à ça, j'ai fait mon alia. Et grâce à ça, j'ai une parnassa. Grâce à ça, je fais de la tzedaka. Grâce à ça, j'ai financé un sefer Torah, etc., etc., etc. Et on arrive à se trouver, je rends cachère mon argent. Et je vais raconter une histoire qui m'est arrivée hier. J'ai un cousin, Germain, qui est l'avocat d'un des plus grands escrocs du CE2. Rien que ça. Il est son avocat. Et à un moment, moi, je parle avec lui et je lui dis, tu sais, je préférais manger du cochon que protéger des voleurs. On a des discussions assez franches, hein, c'est mon cousin. Mais j'aurais dit ça à tout le monde. Et d'ailleurs, je vous le dis ce soir. Et il a commencé à me dire, oui, mais regarde, Jérémy, je suis en train de rendre cachère leur argent en essayant de leur faire gagner leur procès. Donc au final, effectivement, ils vont être acquittés ou des choses comme ça. Et avec ça, ils vont faire plein de mitzvot. C'est super intéressant. Parce qu'en fait, bon, nous, on n'est pas là pour critiquer les gens, d'accord ? Ce n'est pas l'objectif ici, d'accord ? On doit chacun penser à soi-même. Quand moi, je vous parle là maintenant, je me parle à moi-même, d'accord ? Mais en fait, c'est très, 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 très rigolo. Impressionnant. Comment on va essayer à chaque fois de transformer une mauvaise action en mitzvah ? On va aller cachériser. On va cachériser du cochon. D'accord ? Et donc, on va essayer de se donner bonne conscience. Mais ce n'est pas qu'on va se donner bonne conscience. C'est qu'à la fin, on va être un tzaddik. On est celui qui finance les yeshivot. On est celui qui finance les synagogues. On est celui-ci, on est celui-ci. Alors, vous avez mille fois raison. Les associations que je soutiens à titre personnel, toutes, d'accord, n'acceptent jamais de dons de cette personne. D'accord ? Et c'est même plus que ça. Ça va même beaucoup plus loin que ça. Donc en fait, il y a effectivement des dons qui acceptent. Maintenant, après chacun, vous savez, une association, une synagogue et tout, c'est un homme qui est derrière. D'accord ? C'est pas parce qu'il a une barbe, qu'il a un rabbin, il a un truc, qu'il est... Il a besoin de payer le loyer, il n'y a personne, sinon il ferme, etc. Paf, voilà. Il va se trouver une excuse. Voilà. Mais maintenant, est-ce que c'est bien ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas ? Pareil, on n'est pas là pour juger. D'accord ? On n'est pas là pour juger. Vraiment, il faut faire super attention. Le judaïsme, ce n'est pas de juger les autres. Non, ce n'est pas de juger les autres. On est là, nous, la seule personne que l'on peut changer dans le monde, c'est soi-même. D'accord ? Mais vous avez raison que ce n'est pas normal. Maintenant, on doit changer nous-mêmes. Nous, on doit prendre la leçon de cette histoire-là. Et la leçon, c'est qu'on se trouve toujours de bonnes excuses pour aller dévier. D'accord ?
Un avocat dans la Torah, il a le droit de... Il peut défendre un pédophile, il peut défendre n'importe qui. Enfin, un avocat n'a pas le droit de défendre un escroc. Tout le monde interdit la profession.
Ouais. Est-ce qu'un avocat a le droit de défendre n'importe qui ? Est-ce que le droit à l'avocat... Il y a plein de problèmes. Vous avez raison, il y a plein de problèmes. Il y a le premier problème, en fait, d'un avocat, mais bon, là, on sort du sujet, je préfère qu'on parle à la fin, mais gardez la question, on en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure, mais gardez la question.
On aurait des meilleures questions à la fin.
J'espère. On y va. Il y a encore pas mal de trucs. J'y vais, j'avance, je fonce. Le blanc est à plusieurs couleurs à la fois. Razak. C'est rigolo. C'est vrai que je dis ça. Il y a eu un article qui est sorti sur moi dans la presse américaine cette semaine et qui traitait exactement de ça, en fait. Mais, voilà. Alors, la première question que l'on nous pose, selon la Gemara, la première question, donc dans Maseret Shabbat, Daf Lamed Aleph Amud Aleph, la première question que l'on va nous poser quand on arrivera au Gan Eden, on arrivera là-haut, ce ne sera pas est-ce que tu as bien fait Kippour, tu as bien fait Shabbat, tu as bien fait Kashrout, tu as bien étudié. La première question qu'on va nous poser, ça va être « Nasata venatata be'emuna ». Est-ce que tu as fait du masa omatan, du commerce, avec emuna ? Alors, il y a deux significations possibles. Le pshat, c'est est-ce que tu as été droit dans ton commerce ? Première question, on arrive là-haut, tu as été droit dans ton commerce ? Tu as été droit dans tes affaires ? Attends, j'arrive au paradis là. Je pensais que j'en avais de ma société, je l'ai laissé là-bas, on m'en reparle quand j'arrive. Non, direct. Alors, c'est comment ? Tu as été droit ? Les factures, elles sont pas un peu majorées ? Ça me rappelle une histoire. Enfin, je raconte à mes amis avocats celle-là. C'est un avocat qui décède à 28 ans, très jeune. Le pauvre, il vient de commencer sa carrière, enfin il a commencé il y a quelques années sa carrière. Et donc il arrive en haut, et il dit « Mais pourquoi ?» Je suis jeune, 28 ans, j'ai à peine commencé, etc. Il fait, Ben non, regarde, j'ai pris toutes tes factures, j'ai comptabilisé, t'as déjà facturé 110 ans. J'aime beaucoup ça, là. Donc, en fait, as-tu fait du commerce avec droiture? Première question qu'on nous pose là-haut. Et en fait, donc le terme qui est utilisé, c'est Be'emouna, d'accord? Be'emouna, c'est aussi le terme qu'on utilise pour dire avec foi, d'accord? Et c'est quoi, en fait, le deuxième sujet? C'est pas uniquement le sujet de la droiture, c'est le sujet de « As-tu bien géré ton commerce en ayant la foi qu'Hachem dirige tout dans le monde ?» En ayant confiance en Hachem. Et en général, en fait, ces deux sujets, la droiture et la confiance en Dieu, finalement, sont liés. C'est que si je sais que Dieu m'amène ma parnassa, ben finalement, je dis, ben, Dieu m'a demandé d'être droit, Dieu m'amène ma parnassa, je crois en Dieu, donc je vais être droit. Si je ne suis pas droit, c'est que je dis, Dieu, je sais que tu m'as dit qu'il faut être droit pour avoir une parnassa, mais je vais quand même faire des choses parce que je n'ai pas trop confiance en toi. Je ne dis pas comme ça, hein, je ne prononce pas de cette manière. Mais au final, ça revient à ça. Donc ça, c'est la première question qu'on pose en arrivant là-haut. La deuxième question qu'on nous pose, c'est « Kavata itim batora ». As-tu fixé des heures d'études pour la Torah? Là-bas, il y a Rashi, le commentateur, dit « Les fiches à Adam s'arrêrent les tatsek bederech eret » puisque l'homme doit travailler. Le derech eret, c'est le travail, d'accord, dans la Gemara. Les fiches Adam s'arrêtent et t'assèquent bederech eretz. Sheim en derech eretz en Torah. S'il n'a pas de parnassa, il n'y a pas de Torah. Il ne pourra pas étudier. Osrar ligvoa itim la Torah d'avoir katsuv. Il doit fixer des heures fixes pour étudier. Chez lo imacher kol ayom le derech eretz pour pas qu'il soit tiré toute la journée au travail. Donc ça, c'est la deuxième chose. On reviendra plus tard sur le sujet de l'étude. Mais la deuxième question, c'est effectivement, tu ne peux pas. Oui, tu as raison qu'il faut travailler. Oui, tu as raison que la parnassa est importante. Mais tu dois fixer des heures d'études fixes dans ta journée. Sinon, tu feras toute ta journée, tu seras en train de travailler. Je vous donne l'anecdote maintenant. Elle m'est arrivée donc dans le taxi en arrivant. Moi, les chauffeurs de taxi, j'adore discuter avec les chauffeurs de taxi. Donc je dis, je donne l'adresse, il me dit, ah, où tu vas, Alliance et tout, tu vas faire quoi? Je lui donne une conférence. De quoi tu vas parler? Je vais parler de Torah et business. Il me dit, ah, tu sais, moi, je suis chauffeur de taxi. Je travaille 12 heures par jour. Et encore, 12, 13. Je me réveille à 6h30 du matin, je suis déjà en Assar, etc., etc. Comment, moi, je peux étudier la Torah? J'ai la Emouna, mais je ne peux pas. Parce que si je m'arrête, je vais avoir moins de parnassa, je ne vais même pas pouvoir payer mon loyer. J'ai mon fils qui vit chez moi, il a 25 ans, j'ai des frais, etc. Je ne peux pas. Mais je sais qu'il faut étudier. Et je pense que les gens qui sont salariés sont bêtes de ne pas aller étudier. Ceux qui finissent à 5 heures et qui passent leur badge tous les matins. Comme ça, il m'a expliqué en hébreu. Pasteur Tag. Tous les matins. Eux, ils devraient étudier. Alors moi, du coup, je lui dis, mais pourquoi toi, tu n'étudies pas? Il me dit, mais je viens de te le dire. Je travaille 12 heures par jour. Alors je fais, ok. Et pendant ta journée, tu as des moments de libre? Non, j'ai pas de moments de libre. Des fois, il y a un quart d'heure au milieu, comme ça, de vide entre deux clients. Mais une fois, deux fois, trois fois dans la journée. Et moi, je regarde comme ça et je lui dis, mais tu sais que tu as 45 minutes d'études par jour? Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'étudient pas autant de temps. Je lui dis, il me dit, ouais, mais j'écoute de temps en temps sur Idabrout, j'écoute Rav Fenger, il me sortait tous les noms des rabbins, il me dit, Idabrout, j'écoute de temps en temps des trucs. Je dis, non. La force maintenant, parce que j'ai sorti cette Gemara de Kavata Itim la Torah, qui lui, au début, il me disait, mais non, ça c'est pour les autres, pour ceux qui peuvent. La force maintenant, c'est de décider à partir d'aujourd'hui que tous les jours, tu vas étudier 30 minutes par jour. Ok, tu es taxi, tu ne peux pas fixer tes heures d'études, ce qui est pourtant ce qui est recommandé, mais commençons par ça. Tu ne peux pas fixer? Tu vas fixer par contre que tu n'as pas le choix. Chaque jour, c'est une demi-heure par jour. Alors au début, il commençait à me crier un peu dessus, etc. Non, mais bon, sympa l'israélienne. Et après, il me commence à me dire, bon, et j'étudie quoi? Et il a commencé à me poser des questions. Voilà, est-ce que tu peux étudier? Voilà, si. Ah ouais, super intéressant, d'accord. Il était en train de se faire son plan. À la fin, on s'est serré la main. On est sorti, je suis sorti de la voiture, on s'est serré la main. Maintenant, on est associés. Non, il m'a dit, je te souhaite une bonne conférence. Je fais, regarde. Même, je ne sais pas ce que je vais dire ce soir, mais rien que le trajet, finalement, a valu le coup que je sorte. Ça s'est exactement passé comme ça. Donc, en fait, ce sujet, effectivement, de fixer une étude, la journée, on a, pareil, toujours des excuses pour se dire on est débordé, on a plein de choses à faire. Mais au final, c'est la deuxième question qu'on va nous poser. Ensuite, les autres questions, c'est Asakta Bepira Veribia, est-ce que tu as eu des enfants? Est-ce que tu as attendu le Mashiach? Est-ce que tu as été fait du pilpul bechorma? Est-ce que tu as cherché de la sagesse dans ton limoud? Et après, on te dit que tout ça, effectivement, c'est les premières questions, mais là, le plus important au final, ça va être est-ce que tu as eu la crainte de Dieu? Est-ce que tu as vécu avec la crainte de Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu? Je vais vous définir très facilement. Moi, j'ai cherché longtemps pour comprendre c'est quoi la crainte de Dieu. Crainte de Dieu, c'est que quand on se retrouve seul, tout seul, enfermé dans un endroit où on sait que personne ne va nous regarder, on fait exactement les mêmes actions, on pense exactement aux mêmes choses que si tout le monde était en train de nous regarder. La crainte de Dieu, c'est de dire « Dieu nous regarde, regarde chacun de nos actes ». Et donc, le critère de savoir si oui ou non on a la crainte de Dieu, c'est qu'on fait rien en cachette. Absolument rien en cachette. On doit faire des choses besniout, bien sûr, par pudeur, mais rien en cachette. Donc ça, c'est la crainte de Dieu et c'est le deuxième point le plus important. Enfin, le point le plus important, la base de tout. Donc, comme j'ai expliqué, il faut être juif à n'importe quel instant de notre vie. Il faut que chacun de nos actes ait un but propre et que les actions que l'on fait dans notre journée soient des actions les plus propres possibles. Mais de la même manière, quand on va aller travailler, quand on va aller gagner sa vie, quand on va aller manger et boire, quand on va aller faire des actions matérielles, il faut faire en sorte à ce que ces actions aient un but qui soit un but destiné à ce qu'on appelle au service divin. C'est-à-dire que quand je vais manger et boire, je ne vais pas dire « je vais manger ou boire parce que j'adore la gastronomie, j'adore bien manger, j'adore me goinfrer, etc. » un peu à la française. Je dois dire, je vais manger ou boire pour être en bonne santé, pour pouvoir bien faire mes mitzvot, pour pouvoir vivre longtemps et pour pouvoir faire plus de bonnes actions. Ça, c'est la première chose. Je mange et je bois pour ça. Je vais dormir. Pourquoi je vais dormir? Pour avoir l'esprit clair, pour pouvoir bien étudier et pour pouvoir, dans mon monde du travail, dans mon travail, pour pouvoir effectivement ne pas voler mon employeur, par exemple. Il faut savoir que dans la halakha, si un homme est employé d'une société et se couche tard le soir au point qu'il est moins efficace le lendemain, il s'appelle voleur. D'accord? On ne peut pas se dire « Non, moi de toute façon je fais mes heures. Votre employeur vous a recruté pour faire des heures avec toute votre tête. Si vous êtes fatigué parce qu'il y avait la bar mitzvah du cousin la veille, vous devez rattraper vos heures. Vous devez potentiellement parler avec votre employeur. » Donc pareil, on dort. On doit dormir pour bien travailler, pour bien étudier, etc. Et il faut avoir une parnassa pour manger, pour vivre, pour créer un foyer, pour avoir des enfants, etc., etc. Pour s'acheter des objets qu'on peut apprécier. Mais très, très souvent, en fait, on va avoir une parnassa. On va essayer d'avoir une parnassa pour aller épater les copains. On va essayer d'acheter une belle voiture pour les copains. On va essayer d'acheter une belle maison pour les copains. On va essayer de devenir plus riche pour le classement Forbes ou le classement Challenge ou pour ces choses-là, pour les copains, pour montrer aux autres. Et là, en fait, finalement, on n'est plus en train de faire ça à Avodat Hashem, on n'est plus en train de gagner pour le bien, on n'est plus en train d'utiliser l'argent en tant qu'outil. On est en train d'utiliser l'argent pour faire des choses, pour entraîner les autres à fauter. Baisser la clim. Ouais. On va travailler pour essayer d'attirer au maximum les jalousies. Et la jalousie est quelque chose qui est un interdit de la Torah. Donc si j'entraîne que quelqu'un soit jaloux de moi, j'entraîne quelqu'un d'autre à fauter. D'accord ? L'otachmod, c'est une des avérotes de la Torah.
On peut être jaloux pour moins que ça.
On peut être jaloux pour moins que ça. Non, tout à fait. Vous pouvez étendre ça à n'importe quoi. Vous avez mille fois raison. Donc, il n'est pas question dans le judaïsme, de s'enrichir pour faire le bien. Donc, en fait, le Rambam, dans Maïmonide, donc là, moi, je parle d'Alachot, d'accord ? Donc, l'homme doit avoir la kavana de son cœur et tous ses actes pour connaître Hachem uniquement. il aura son assise et son lever et sa parole à Kol Leumatze Adava, toujours pour connaître Dieu, se rapprocher de Dieu. Ketzad, chez Isaveiten ou Yase Melachal et Tolstra, quand il fait du commerce ou quand il va faire un travail pour recevoir un salaire. Loye Belibolik Bots Mamon Bilvad, il ne doit pas avoir comme objectif uniquement de rassembler de l'argent, but de rassembler de l'argent. Et il y a cette varim aelu, Kedeshim Sadvarim, Shagouf, Sarech, Laem, Meachilash, Tiav, Shiad Baït, Unsia Tisha. Comme j'ai expliqué, il va faire ça pour arriver à faire ce qu'il a besoin. Pour avoir un foyer, avoir assez d'argent pour que sa femme soit heureuse, etc. C'est relatif, et etc., etc. Donc ça, c'est aussi un autre, donc c'est un autre point aussi dans le monde des affaires que effectivement, on est en permanence dans un monde où l'argent est considéré comme le score de la vie. Moi, j'appelle ça le score de la vie. En fait, dans notre monde, on n'a aucun moyen de noter si quelqu'un est bien ou pas. A réussi sa vie ou pas, d'accord? On n'a pas moyen de noter. Alors on va dire, on ne peut pas dire quelqu'un effectivement a fait beaucoup de mitzvot, a fait beaucoup d'averot, on ne peut pas le savoir, d'accord? Excusez-moi une seconde. On ne peut pas le savoir, d'accord? On ne peut pas savoir si quelqu'un fait des bonnes actions, on ne peut pas. Donc au final, comment est-ce qu'on note les gens? On va dire quelqu'un a réussi en regardant le classement challenge, le classement des fortunes. Il a réussi parce qu'il a beaucoup d'argent. Donc au final, les gens qui réussissent, et dans la vie de tous les jours, vous allez à Londres par exemple, ou même certains endroits d'Israël, vous allez voir, on se rend compte qu'effectivement, l'objectif numéro un des gens, c'est de s'enrichir encore plus. Pourquoi on s'enrichit encore plus? Parce que bah, c'est comme ça que je peux dire que j'ai réussi. Puisque les gens vont dire, tu as réussi, tu es riche. Tu es riche. Alors qu'en fait, tout ça, c'est effectivement un leurre. C'est un leurre. Moi, effectivement, je conseille des milliardaires et des gros milliardaires. Et en fait, finalement, cette course à être de plus en plus riche, elle n'a pas de fin. C'est-à-dire que même quand on arrive tout en haut, d'accord ? Bon, je ne conseille pas Bill Gates, pas encore. Encore, il fait des bonnes choses, Bill Gates. Mais on est toujours dans une course, finalement, à être, pour être le meilleur et être au-dessus, etc. Et au final, on oublie tout le reste. On oublie absolument tout le reste. Donc, on a parlé maintenant de, effectivement, du fait qu'il y ait des lois qui sont destinées à régir le monde du travail. Il y a maintenant, effectivement, maintenant, le sujet. Alors, le sujet est moins important en Israël, mais étant donné qu'on peut vivre dans une ville pas religieuse, on peut se trouver avec problème. J'ai eu une élève, enfin une personne à qui j'ai donné une conférence la semaine dernière qui me disait « Je suis venu en Israël ». Pour pouvoir prendre mes fêtes, Shabbat et manger kasher facilement. J'ai jamais eu autant de difficultés à y arriver depuis que je suis là. D'accord ? Alors je dis, effectivement, c'est un challenge. C'est effectivement un challenge. Si c'était si facile, on n'aurait plus de mérite. Donc effectivement, il faut réussir à suivre la halakha, effectivement, dans son environnement. Et c'est effectivement le plus grand challenge. Donc rester un bon juif dans un environnement non juif et non religieux, et l'épreuve principale à laquelle nous sommes confrontés. Moi, je vais vous raconter maintenant quelques anecdotes qui me sont arrivées, donc en tant que juif pratiquant. Un jour, c'était en l'an 2000, mon assistante reçoit un appel, et c'était le chef de cabinet du ministre suédois, du ministre de l'Industrie suédois. Donc, reçoit un appel, on aimerait inviter M. Berebi à dîner avec les 12 ministres de l'Industrie européens. J'avais 21 ans. Oui, on va inviter 3 entrepreneurs européens, et c'est M. Berebi qui a été choisi, on veut vraiment l'avoir avec nous, etc. etc. Bon, moi je dis à mon assistant, je dis, regarde, dis-leur que je ne peux pas, parce que je mange cachère, et je ne me vois pas aller regarder comme ça, donc une autre occasion avec plaisir, mais là non. Et de merci, à cette époque j'étais en permanence au Sénat, à l'Assemblée, plein de choses. HM avait envoyé à me retrouver partout. Vous vous rappelez du film Forrest Gump? J'étais pareil, vous voyez, c'était le même, la même chose. Et donc je dis, non, bah, je mange cachère, donc désolé, ça ne va pas le faire un dîner, mais une autre fois, je pourrai avec plaisir, on pourra faire organiser ça différemment. Et là, de l'autre côté, le chef de cabinet dit « Non, 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 il n'y a aucun problème. Quel est votre numéro de fax ?» Numéro de fax, c'est, alors c'est un... Bon, je ne vous explique pas ce qu'est un fax, ça existe encore. Et...
On peut mentir dans ce cas-là.
Pardon ? Pourquoi j'ai menti ?
En disant « Non, je ne peux pas le jour-là. »
Ah non, j'ai pas dit « Je ne peux pas le jour-là. » J'ai dit « Je ne peux pas parce que c'est cachère. » Ah non, 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 c'est pas cachère. Vous allez voir pourquoi. Et donc, il me dit « Non, non, il n'y a aucun problème. » Non, 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 j'ai pas menti. Ah, je dis pas que j'ai jamais menti dans ma vie, mais là, non.
On a le droit de mentir dans ta vie.
Pardon ?
On a le droit de mentir dans ta vie.
Il n'y a pas le droit, mais ça se trouve.
Mentir, c'est mi devar sheker tichrak, c'est a priori. Après, on peut trouver un moyen de s'en sortir, mais mentir, non. Mentir, a priori, il y a très très peu de... Il y a pareil, un gros livre sur le sheker que j'ai chez moi. Pas encore eu le temps de l'étudier. Mais en fait, la moitié du livre, c'est pour dire qu'il ne faut pas mentir. Et l'autre moitié, c'est de dire les exceptions. Mais en tout cas, c'est chaud. Et donc, je lui dis, bah, effectivement, je mange cachère. Et donc, lui, il n'y a pas de problème, donnez-moi le numéro de fax. Donc, je reçois par fax la liste de toutes les cacheroutes européennes. Il me dit, choisissez ce que vous voulez. Et donc, j'ai pu choisir cacheroute. Il y avait une cacheroute à Strasbourg. Et voilà, bah, cacheroute, très bien, celle-là. Ah, bon, là, je ne peux plus refuser. Ah. J'arrive, il m'envoie mon billet, j'arrive là-bas, j'arrive dans une suite magnifique, on tape à ma porte, monsieur, on vient vous inviter, votre voiture vous attend en bas, vous allez dîner avec les ministres. Ça, vous imaginez le truc, c'est complètement dingue comme histoire. Et donc j'arrive dans cette salle, une salle immense, certains ont dû déjà m'entendre raconter cette histoire, j'arrive dans une salle immense, il y a tous les traducteurs qui sont en haut, parce que chaque ministre parle leur langue. C'est comme ça chez les Européens, ils ne veulent pas parler anglais entre eux. Et donc, il y avait plein d'aquariums. Donc, c'est une salle vraiment gigantesque, une énorme table, les 12 ministres assis, chef de cabinet à côté. Et moi, donc, il m'assoit. Et là, il y a les serveurs qui viennent me voir. Me disent, enfin, ils comprennent que c'est pour moi, c'est pour lui, c'est pour lui. Ils viennent me voir. Il me dit, bon, monsieur, on a compris que c'est le truc. Vous voulez qu'on vous l'ouvre, on vous le chauffe et tout. Je fais, non, 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 amenez-moi le plateau comme ça. Et donc, il m'amène le plateau. Et le plateau... Donc, je ne sais pas si vous avez, il y a un film plastique au-dessus qui est très, très, très dur à ouvrir. D'accord. Et le couteau est à l'intérieur. J'avais pas de stylo à l'époque toujours sur moi. Vous comprenez pourquoi j'ai toujours le stylo maintenant, c'est pour moi. Et j'arrive. Alors déjà, première chose, ils me servent en premier. C'est comme dans l'avion où ils servent en premier très souvent les repas cachers. Et il me servent en premier, donc déjà tout le monde se retourne. Il n'y avait que les Suédois qui étaient au courant de cette histoire. Et j'essaye de commencer à ouvrir, je fais un peu de bruit et il y avait un écho énorme dans la salle. Et donc j'essaye d'ouvrir et tout. Et bon, j'attends un peu, j'attends que tout le monde soit servi et tout. Et après là, je recommence, j'essaye et vraiment après, il faut que je fasse tac, tac, tac. Très, très dur. Et non, j'avais rien, je faisais ça avec mon doigt. Et à la fin, et donc au final, j'ai ça. Et à un moment, il y a une femme en face de moi, donc un ministre, une ministre, qui me dit mais qu'est-ce que vous faites ? Alors je lui dis ben, en fait, je mange cachère. Et elle me dit ah ben, moi aussi, je devrais. Et en fait, cette femme-là était juive elle-même. Et en fait, quand j'ai fait cet acte-là, je voyais des étoiles autour de moi. C'est-à-dire, j'étais en train de faire une action, j'étais entouré à Bruxelles. Entouré des 12 ministres d'Europe et en train de jouer mon rôle de juif qui était je dois manger cachère à ce moment-là. Et finalement, dans ma vie, il n'y a pas beaucoup de moments comme ça aussi forts auxquels je vais me souvenir et je vais pouvoir raconter à mes petits-enfants. D'accord ? Déjà, à mes enfants, je vais raconter déjà. Et ben, en fait, ce sont ces épreuves-là. Ce sont ces moments-là où on prend une décision forte et au final, j'ai ouvert mon repas. C'était le plus dur, donc c'est l'ouverture. Et j'ai mangé ce repas. Devant tout le monde, froid, mais c'était que du poulet, des trucs. Ils sont forts, les rabbins, ils savent faire des trucs, ils connaissent ce truc. Et c'était très bon. Et en final, on a fait une soirée complètement normale. Normale. On était là, on parlait, je parlais avec les ministres, etc. Il y avait mangé cachère, etc. D'accord ? Quand j'ai commencé à travailler, à l'âge de 18 ans, donc j'étais journaliste, commencé à travailler, donc j'ai été employé d'une grosse entreprise dans la presse informatique et j'étais le seul juif pratiquant. Et là, en fait, quand j'arrive, je fais bon, je mange cachère, qui vient avec moi ? Je dis à mes collègues non juifs. Ah, bah bien, j'ai jamais mangé cachère, je viens avec toi. Hop, 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 3, 4, 5, on y va, on sort, on va au resto à côté, On arrive, oh, super bon et tout. Hop, depuis ce jour-là, ils allaient régulièrement au resto cachère. Moi, des fois, je mangeais seul, je mangeais pas seul, j'avais un seul resto. C'était à Levallois-Perret, on avait nos bureaux. Et au final, ces gens-là, en fait, ont commencé à aussi manger cachère. Et au final, il s'est même avéré qu'un d'entre eux était juif. Donc au moins, j'ai réussi à le faire manger cachère. Pareil, dans d'autres événements, je me suis retrouvé avec des ministres. À l'époque, j'étais proche de Valérie Pécresse, qui était la conseillère de Jacques Chirac dans les nouvelles technologies. Et donc moi, comme j'étais dans le move, donc j'étais en permanence à l'Élysée, reçu, etc. Et c'était Valérie Pécresse. Et en fait, on allait déjeuner au Cinecittà juste à côté. Et en fait, quand je retournais au Cinecittà, je me disais, ouais, Valérie Pécresse, elle était là, elle amène plein de monde régulièrement, elle adore le resto, elle y vient régulièrement. Et en fait, au final, jamais, j'ai eu une remarque sur ma pratique religieuse. Jamais, jamais, jamais. Même savoir qu'en fait, moi, je ne serre pas la main aux femmes. D'accord ? On a un problème de serrer la main aux femmes. Ça, c'est le plus grand challenge dans le monde des affaires. On a la chance maintenant d'être en Israël où la plupart des femmes savent que quand elles voient quelqu'un de religieux, on ne lui serre pas la main. D'accord ? Mais ça reste le plus gros challenge. Mais pas le choix. C'est comme ça. C'est pas permis. Alors, savoir qu'il y a certains rabbins qui permettent dans certaines occasions, certains trucs, c'est un sujet en soi. Il y a certains livres qui en parlent si ça vous intéresse. Mais en tout cas, moi, j'ai été très clair là-dessus. Donc, ce que je fais en général, c'est que j'avertis à l'avance les femmes que je vais rencontrer le lendemain. Je leur envoie un mail en disant, regardez, je m'excuse d'avance. Voilà, je suis juif orthodoxe pratiquant. On va se rencontrer demain. Sachez juste que je ne sers pas la main aux femmes. Je ne veux juste pas vous mettre à l'aise. À part ça, je suis très sympa. Donc, j'ai un message comme ça. Et en général, très, très souvent, en fait, c'est il n'y a aucun problème, Jérémy. Ça sera avec plaisir, etc. Ou certaines me disent, mais tu sais, Jérémy, je suis juif moi-même, etc. Pas autant que toi, pratiquant, mais etc. Et encore dans le sud. Et en fait, je fais ça. Une fois, j'ai fait ça l'année dernière. J'étais invité par Challenge. On était invité. Il y avait une grande conférence au Palais Brongniart, à la Bourse de Paris, enfin l'ex-Bourse. Et je devais être sur scène avec deux femmes. Et en fait, je me suis dit, si je les avertis pas à l'avance, je vais arriver et elles vont devoir me serrer la main. Et là, autant quand on est seul et j'ai pas averti, je dis excusez-moi, mais je serre pas la main aux femmes, je m'excuse. Mais autant me retrouver devant tout le monde et le faire, c'est pas bon, c'est pas le faire. Et là, effectivement, j'ai envoyé un message aux deux femmes. Et en fait, une d'entre elles, comme effectivement, est juive, et l'autre m'a dit il y a absolument aucun problème, etc. Donc quand je suis monté sur scène, elle m'a fait un petit clin d'œil, genre c'est bon, on est entre nous, ça va, on est au courant de l'histoire. Autrefois, je me suis retrouvé à un grand salon de l'Internet, ça s'appelait le web, ça n'existe plus maintenant. Et je me suis retrouvé à un grand salon et à un moment, il y a un homme et une femme, des start-upers qui viennent me voir. Et une femme, c'était grande blonde, mannequin, je ne sais pas quoi, etc., qui viennent me voir. Et là, donc là, je n'ai pas pu avertir à l'avance, je ne savais pas que j'allais les rencontrer. Et là, je leur dis, désolé, je serre la main à la personne, je dis, désolé, moi, je ne serre pas la main aux femmes, mais vraiment, je m'excuse. Et elle me regarde comme ça, elle parlait anglais, elle me disait « Really, it's good actually ». Elle a eu une réaction positive. Et en fait, c'est toujours avec énormément de respect. Moi, il y a eu une dépêche AFP qui est sortie sur ma vie, il y a quelque chose comme 6-7 ans. Elle s'appelait « La double vie de Jérémy ». Ça parlait en fait de ma vie religieuse et ma vie dans le monde des affaires. Et à la fin, ça parlait, Jérémy ne serre pas la main aux femmes et dit que c'est effectivement la chose la plus complexe qu'il a à faire dans le monde du travail, etc. Mais en fait, l'article était élogieux. Et c'est une femme qui l'écrivait. D'accord ? Et il y a eu, en fait, sur les forums musulmans, des discussions et des échanges. Les gens ne comprenaient pas. Les musulmans ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils disent, on ne comprend pas. Nous, quand on ne serre pas la main aux femmes, on est en train de nous insulter, on est en train de dire qu'on est des arriérés, etc. Jérémy, on est en train de faire une dépêche AFP. Pourquoi ? Et en fait, j'ai expliqué qu'en fait, ce genre de choses, finalement, la religion doit être vue comme, vis-à-vis des gens, les gens doivent ressentir qu'on essaie de devenir quelqu'un de meilleur. Pas juste de prendre sur nous des vieilles doctrines, des vieilles choses et faire des choses bêtement, mais que notre objectif, c'est d'être meilleur. Quand les femmes maintenant ont compris, et toutes les femmes avec qui je travaille avec énormément de femmes, ont compris pourquoi effectivement je ne serrais pas la main aux femmes, d'accord ? effectivement, c'est pour garder une certaine distance. Et effectivement, bon, c'est un sujet en soi. Et ben, effectivement, au final, c'est avec elle, avec moi, qu'elles ont eu les meilleures relations. C'est avec elle, c'est avec moi qu'elles appellent quand elles ont un problème, c'est moi qu'elles appellent quand un truc. Elles savent qu'avec moi, voilà, on est en train de parler, affaires, vie, etc. Et on n'est pas en train d'essayer d'avoir des relations potentiellement plus proches. Donc, le fait effectivement de se mettre dans un objectif de s'améliorer et que les gens comprennent que c'est ça notre objectif, finalement nous aide à faire que les gens reconnaissent le bienfait de ça. Quand je me retrouve donc avec les 12 000, quand je me suis retrouvé avec les 12 ministres de l'industrie à manger cachère, j'ai compris que je faisais pas ça bêtement. J'étais pas juste là en train de les embêter. J'étais en train de, je voyais que je faisais ça avec Anava, c'est-à-dire qu'avec Ira, j'étais pas là en train de sauter dans tous les sens, enfin, un peu. Mais j'étais pas là comme ça. J'étais vraiment, ils sentaient que j'étais en train de faire quelque chose qui était, voilà, j'ai pris quelque chose sur moi, il faut que je continue à le faire. Il y a Axel Le Maire, que vous connaissez Axel Le Maire? Ouais, Axel Le Maire est venu en Israël il y a 3 mois, en septembre, pour DLD. Et en fait, dans son agenda, il y avait rencontre avec moi. Donc moi, je suis l'ambassadeur de la French Tech en Israël. Ils m'ont trouvé un rabbin pour faire ça. Et donc, Axel Le Maire arrive. Et en général, en fait, l'ambassade avertit toujours les femmes qu'il faut passer à la main. Ça fait partie du protocole. Et là, ils n'ont pas averti. Donc, Axel Le Maire arrive vers moi. Et en fait, surtout, c'est la deuxième fois que je la rencontre. Il y a 2 fois, je lui ai fait le même coup. Et elle ne s'est pas rappelée de la première, comme quoi. C'est bien passé. Et je lui dis, désolé, je ne tape pas la main aux femmes. Je dis, ah, ok, très bien, venez, on s'assoit. Et on commence à s'installer. Et pendant, on avait un rendez-vous de 45 minutes. Pendant 25 minutes, elle a voulu parler de Talmud. Elle me dit, ma mère est prof de philo. Franchement, moi, j'en ai marre de parler de travail. Venez, on parle un peu de Talmud. Et on a parlé de Talmud avec Axel Le Maire. Donc voilà. Alors maintenant, il y a eu une histoire où j'ai eu un problème avec mon judaïsme. Cette histoire, c'était... quand j'ai eu mes nouveaux bureaux en 2099, le soir où j'ai eu les nouveaux bureaux, j'ai fait une pause des mezouzot, d'accord ? Mais j'avais mis des belles mezouzot, d'accord ? Bien, bien sympa, pas les trucs les plus discrets du monde. Et le lendemain matin, les employés arrivent et tout le monde regarde. Ah, c'est joli, ah, c'est sympa. Et là-bas, à l'époque, j'avais une directrice financière qui arrive et me dit : ah, il paraît que ça porte bonheur. Et elle fait comme dit, c'est comme ça qu'on veut. Et elle embrasse. Elle n'était pas juive. Et donc, en fait, réaction super positive. Et à un moment, j'ai un garçon qui vient, qui était mon directeur technique à l'époque, et qui commence à dire, Jérémy, je ne comprends pas. Déjà, on est nos bureaux rue du Sentier. C'était le lieu des startups. Yahoo était rue du Sentier aussi. Nous, on était au 20 et ils étaient au 8. Et déjà, on a nos bureaux rue du Sentier. En plus, pourquoi on met des choses aussi visibles, etc. Je fais, hey, Jean-Marc, t'as rien à me dire, c'est comme ça, vous êtes comme ça, t'as rien à me dire. Si t'es pas content, c'est pareil. Non, mais quand même, etc. Cette personne-là, d'accord, qui a été mon directeur technique pendant 6 mois, quelque chose comme ça, j'ai appris au final qu'elle m'escroquait, qu'elle escroquait la société, qu'elle faisait sous-traiter des choses à des prestataires, alors qu'en fait c'était lui qui faisait les choses de soi. Grave. Et la deuxième chose, c'est qu'un jour un ami m'appelle en disant voilà, ce monsieur s'appelle pas mais s'appelle Rosenberg. Ouais. J'ai pas rigolé comme ça tout de suite. Et donc en fait très très souvent vous allez vous rendre compte que les gens qui vont pousser à ne pas respecter la Torah dans le monde des affaires ou dans le monde en général seront des juifs. Ce sont des juifs qui vont pousser à ça. Et ça, finalement, ça a été la seule expérience que j'ai eue où j'ai eu vraiment un affront auquel faire face. Alors, je ne sais pas quelle heure, il est 20h37, j'ai encore un peu de temps. Vous êtes fatigué ? On continue ? Pardon ? D'accord, en question. Encore 15 minutes et on pose des questions ? C'est bien, un peu moins, 12 alors. À juger ? Bon. 12 plus TVA. Hein ? Moins 40, on y va. Ok, très bien. Alors je me dépêche. Donc en fait, il y a un rav qui s'appelle Rav Matityahu Ahitzari, qui était un rav qui a plusieurs centaines d'années, écrit qu'un juif dans un environnement non juif est scruté en permanence. Même ses actes non intentionnels sont considérés comme intentionnels. En fait, notre position particulière dans le monde, c'est que on ne peut pas se permettre de faire les choses comme les autres. On ne peut pas se permettre d'être juste bien droit comme le reste du monde. Pourquoi ? Parce qu'on est en permanence scruté par les non-juifs. Et en fait, l'objectif numéro un qu'on a, c'est de faire ce qu'on appelle du Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, comment on va définir le Kiddush Hashem ? C'est se faire en sorte à ce que les gens se disent « Qu'est-ce que la Torah de Dieu est belle pour pouvoir transformer des gens en des gens aussi droits, honnêtes, etc. » C'est ça le Kiddush Hashem. Et le contraire s'appelle le Chilul Hashem. C'est quand on fait des actes où on dénigre finalement la Torah de Dieu. Et pourtant, si on est juif, on représente, on a quand même le badge de cette Torah. Le Chilul Hashem est la faute la plus grave de la Torah. Le Rambam dit dans Shaar et Tshuva, Chilul Hashem oncho le maala mikol averot. Sa punition est la plus grande que toutes les averot que l'on peut faire. Alors maintenant, en fait, il y a quelqu'un qui s'appelle Yossi Heber, qui était l'ancien directeur marketing du groupe IAC. IAC, c'est Expedia et toutes ces boîtes-là. Vice-président marketing de Danone et qui est un juif orthodoxe. A listé dans un livre, je vais vous donner quelques références après, qui s'appelle Making It Work, a listé les 6 règles pour qu'il y ait le maximum de Kiddush Hashem dans le travail. La première, c'est effectivement être gentil avec les gens. Ça a l'air tout bête, mais on est juif, on doit être gentil avec les gens. On ne doit pas être renfermé, on ne doit pas être quelqu'un de faisant la tête tout le temps. On doit être gentil avec les gens, être la personne la plus sympathique autour de nous. Faire du travail de qualité exceptionnelle. Je passe, hein, y a des détails, mais je passe. Être constant dans notre religiosité. C'est-à-dire que si on est juste à vouloir être juif pour partir plus tôt le vendredi et avoir plus de vacances pendant les fêtes, ça ne va pas le faire. D'accord ? Ils vont s'en rendre compte. S'il y a plus que ça, là, effectivement, ils vont comprendre. Être religieux, mais montrer qu'effectivement, nous sommes une personne normale, sympathique, amicale. On peut parler politique, on peut demander des nouvelles de la famille des collègues. On peut faire des blagues, cachères. Attention. Et pas obligatoirement participer au dîner avec tout le monde, parce que ça peut très très souvent se retrouver problématique. Il y a des lois particulières là-dessus. Il faut être quelqu'un dont on aime la proximité. Quelqu'un à qui on a envie d'appeler quand on a envie de parler avec quelqu'un. On a envie d'inviter. Et étudier et améliorer notre spiritualité en dehors de nos heures de travail. Puisqu'effectivement, en fait, c'est en étudiant et en améliorant son caractère et ses actes qui va faire qu'effectivement, tout ça va se refléter dans notre vie professionnelle. Là, il y a un point qui est important, c'est, comme on a expliqué, c'est l'influence. D'accord ? J'ai expliqué qu'on a très très souvent des gens qui, autour de nous, en fait, vont nous pousser à ne pas être chômeur Shabbat, à ne pas manger kasher, à ne pas faire ci, à ne pas faire ça. Et à nous faire dire « business is business ». Et très très souvent, on voit que des industries, finalement, sont des bandes de copains. On va tous bosser dans le Forex, on va tous bosser dans ci, on va tous bosser dans ça, on va faire de l'assurance, on va faire du call center, on va faire du ci, on va faire du ça. En fait, c'est des groupes comme ça qui vivent ensemble et qui, en fait, se donnent bonne conscience. Et effectivement, quand on vit, en fait, tous les jours avec des gens qui font des choses, on est attiré par ça. Et en fait, le Rambam précise dans Ilchot Deot que le derer briato chez la dame, liot nimshar bedotav masav chareav et chaverav. La nature de l'homme est d'être attiré par les actions des gens qui les entourent. Et il va, ce Noeg, il va vivre, disons, comme le minag, comme la manière dont vivent les gens de son pays. C'est pour ça que je traduis directement, l'homme doit s'attacher au tzadikim et être entouré de gens chachamim, sages, afin qu'ils apprennent leurs actes. Et il doit s'éloigner des gens méchants, des gens mauvais. Alors, Chim Bachrocher qui vont dans l'obscurité pour ne pas apprendre de leurs actes. Et si effectivement dans un pays ou dans notre entourage, on ne trouve pas de gens bien, on peut se retrouver à un moment dans une certaine ville, un endroit où on se trouve entouré avec une communauté avec des gens qui ne sont tous pas honnêtes, d'accord, ou pas droits, bah, à ce moment-là, il vaut mieux rester seul. C'est ce que recommande le Rambam. Donc, très important, effectivement, ce genre de choses. On va passer en quelques secondes tout le sujet. Enfin, vraiment, 13 secondes, c'est un peu dommage, mais c'est un sujet en soi. Ça va être, effectivement, quels sont les types de mitzvot qu'on a associés au monde des affaires. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a le vol. Ce n'est pas uniquement voler le sac à main d'une vieille dame. Ce n'est pas uniquement de prendre de la poche. On peut voler son employeur. Effectivement, comme j'ai expliqué, on dort mal. On passe son temps au travail à être sur son WhatsApp et sur son Facebook, sur son smartphone, en pause café, en pause cigarette, en pause n'importe quoi. Il est clair que quand un employeur recrute quelqu'un, il le veut pour l'ensemble des heures. Donc, il faut obligatoirement remplir l'ensemble de ses heures. Évidemment, à notre époque, ce n'est pas comme ça. On ne travaille pas 8 heures d'affilée. Mais il y a des règles dans une entreprise. Et s'il n'y a pas de règles, il faut aller voir son boss, il faut aller voir son patron et aller lui demander quelles sont les règles. Combien de fois je peux répondre à mes mails personnels, combien de fois je peux prendre du pause café, etc., etc. La nouvelle loi du travail qui sort, donc la nouvelle loi française du travail qui sort là en janvier, précise, en fait, est en train de pousser les entreprises à mettre en place des règles pour l'utilisation du smartphone au travail et l'utilisation du smartphone en dehors du travail. D'accord ? Et ça, en fait, tout ce que je vous dis, c'est même si vous pensez être mal payé. C'est très important ce que je vous dis. Parce qu'en fait, en général, pourquoi est-ce qu'on vole les stylos du patron? Pourquoi on va prendre des pages blanches de la photocopieuse pour donner ça à son fils le soir? Pourquoi on va prendre des trombones? On va prendre des timbres? Pourquoi on va faire plein de choses? Tout ça, c'est des choses que j'ai vues, hein, d'accord? Tout, et qu'on a tous vues, d'accord? Pourquoi on va faire ça? C'est qu'on va dire, mon patron, c'est un sale type, et il me paye mal. Et il gagne beaucoup d'argent. Et il devrait me payer plus, donc. D'accord? Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à ça. Il n'y a aucune raison de voler de cette manière parce qu'on est mal payé. Si on est mal payé, on est mal payé. Il faut aller voir ailleurs, il faut aller faire ce qu'on veut. Mais en gros, on n'a pas à aller se recharger tout seul. D'accord ? Et si vous avez un problème, vous êtes mal payé, vous dites, mais quand même, il m'avait promis de me donner, de me payer des heures sup, mais maintenant, il ne veut plus me les payer. Là, vous appelez un rave et peut-être il vous trouvera une solution pour rattraper le coup, pour faire des choses, etc. Ou alors vous dire, bah, faut prier ou des choses comme ça. Donc ça, c'est le vol. On a le sujet de la gnevat da'at. On ne peut pas vendre quelque chose en disant que la chose fait une action ou a une particularité alors qu'elle ne l'a pas. Même si cette chose qu'on dit n'a aucune importance. Par exemple, la Gemara dit, on n'a pas le droit de vendre à un non-juif de la viande cachère, de la viande non cachère, en disant qu'elle est cachère. Alors qu'en fait, pour lui, ça ne change absolument rien. D'accord ? Mais non, on n'a pas le droit de dire que la viande est cachère. Ça s'appelle de la gnevat da'at. On vole l'esprit. Ah, super, j'ai la viande cachère. Il va rentrer chez lui, il va dire, oh, je vends de la viande cachère, c'est sympa, je vends de la viande cachère. Non, 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 on n'a pas le droit. Si vous êtes invité à un mariage, pour juste voir à quel point le gnevat da'at est important. Si vous êtes invité à un mariage d'un cousin à New York, vous ne comptez pas y aller du tout. D'accord ? C'est loin à New York. Mais il s'avère que vous avez au même moment une affaire à faire là-bas. D'accord ? Au début, donc, vous ne pensez pas y aller et après, vous avez une affaire à faire à cet endroit-là. Donc, vous prenez votre billet d'avion pour aller faire cette affaire. Et au passage, vous dites, en même temps, je vais aller à la bar mitzvah pour le mariage. Le cousin arrive et tu lui dis, regarde, tu as vu ce que j'ai fait pour toi ? Je suis venu spécialement. Ou alors, même si vous ne lui dites pas, mais lui le pense, vous devez lui dire, non, mais en fait, regarde, je ne comptais pas venir, mais regarde, grâce à Dieu, il y a eu une opportunité en même temps. Gnevat da'at. Pourquoi, en fait, dans ce cas, pourquoi c'est important? C'est qu'en fait, la personne va être redevable vis-à-vis de vous. D'accord? Bah, ah, moi aussi, s'il fait en Alaska son truc, je vais devoir y aller. D'accord? Payer ses salariés et fournisseurs à temps. C'est quelque chose, en fait, quand on est patron, on a des fois l'habitude de dire, bah non, on va les payer 3 jours après, 4 jours après, etc. Ou même un fournisseur. Il y a des grands chefs d'entreprise dont on entend beaucoup parler, qui sont très fiers de dire, on a décalé les paiements des fournisseurs. Il a même fallu que Macron fasse une nouvelle loi en France pour que les grandes entreprises payent leurs fournisseurs à temps. Il est interdit de payer ses salariés après le dernier jour du mois. Il est interdit de payer un fournisseur, à moins que le délai de paiement avait été prévu à l'avance, après le soir, après la tombée de la nuit, du jour où il a fini son travail. D'accord ? Tout ça, c'est des sujets gigantesques. D'accord ? Je vous donne quelques bribes. Il y a le sujet de Honar, il y a le sujet de fixer les prix. On ne peut pas vendre un produit à quelqu'un à un prix différent du prix du marché si on se dit, bah, en fait, il ne connaît pas le prix, donc je vais lui donner un prix différent. D'accord ? Donc, un produit vaut 300 shekels. Je vais dire, il n'en sait rien, c'est un touriste, c'est je ne sais pas quoi, c'est un Français. C'est un Français, vous savez, nous, on est des cibles Enfin, et donc je vais lui vendre plus cher. C'est un interdit de la Torah qui est le pasouk que je l'ai pas là. Bon, je l'ai pas là. Si. Vechitim kiru mimkor la amitecha ou kne miyad amitecha altenu ishtariv. Ne trompez pas quand vous achetez ou quand vous vendez ou quand vous achetez. Même si vous achetez quelque chose, vous voyez quelqu'un, par exemple, vous allez dans une brocante, vous voyez qu'une personne a une pièce, a une œuvre d'art absolue qui vaut une fortune, mais il est en train de mettre 10 euros dessus, vous n'avez pas le droit de lui acheter à 10 euros. Vous devez l'avertir qu'il est en train de vendre quelque chose à pas cher. Dur, hein? Pareil, on ne peut pas dire... En fait, dans la loi non-juive, dans les lois commerciales, il y a un sujet, je ne sais plus comment il s'appelle, la loi s'appelle en anglais, il y a un sujet qui est de dire... Le consommateur est censé s'informer d'abord. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas de recours quand on achète un produit trop cher quelque part. Donc, il aurait dû aller au comparateur de prix, il aurait dû se comparer, etc. Donc, là, pareil. Donc, si effectivement, quelqu'un a acheté trop cher un produit, il a, selon la loi juive, il a la possibilité de revenir avec un certain délai assez court, revenir et demander remboursement. Si en fait, le prix s'élève à plus d'un sixième de plus que le prix moyen, le prix standard. Il peut demander un remboursement. C'est moins incisif. Il peut demander d'annuler la vente. Pardon. Il peut pas demander un remboursement. Il peut demander d'annuler la vente. Si c'est moins d'un sixième, il peut demander de rembourser la différence. Pareil, c'est un sujet en soi. Ça s'appelle ONA. Il y a le sujet du prêt à intérêt. Il est interdit de prêter à intérêt à un juif ou emprunter à intérêt à un juif. D'accord. Donc, si un jour quelqu'un vous prête de l'argent, vous n'avez pas le droit de lui dire en échange, tu m'invites aux Bahamas ou en échange, tu m'offriras une pomme. Même ça. Ou en échange, tu me prêtes des tomates, ou tu me prêtes ta voiture demain. D'accord ? Quand on prête de l'argent à quelqu'un, à un juif, et si un juif nous prête de l'argent, ça doit être à taux zéro. Pourquoi avec un juif ? On peut se dire, je suppose qu'il y a la question, pourquoi avec un juif et pas avec les non-juifs ? Si on est des gens si bien, pourquoi pas les non-juifs ? C'est qu'en fait, ce concept-là de l'intérêt, c'est faire en sorte à ce qu'on ressente que nous sommes tous des frères. Si mon frère me demande un prêt, je ne vais pas lui demander d'intérêt. Si on est censé être tous des frères, je ne peux pas demander l'intérêt à n'importe quel juif. D'accord ? Donc, un non-juif peut prêter à un juif avec intérêt et un juif peut prêter à un non-juif. Par contre, effectivement, si le juif veut s'acheter une maison ou faire un investissement ou ouvrir une entreprise avec, il est possible, via un mécanisme qui s'appelle Eteriska, il est possible de transformer ce prêt en association. Même si le prêt a un taux fixe, un taux d'intérêt fixe, mais il est possible de transformer ce prêt en association. C'est pour ça qu'en Israël, on peut prendre une mashkenta à la banque, parce qu'il y a effectivement un contrat que les gens ne savent pas, qui s'appelle un Heter Iska, qui est signé entre le conseil d'administration de toutes les banques d'Israël et des rabbanim, qui fait que toutes les transactions avec intérêt sont transformées en transactions d'association. Mais ça, c'est un sujet en soi. Voilà un dernier exemple. Donc évidemment les poids et les mesures, c'est un des points les plus importants. À l'époque, on pesait les choses avec des petits poids, on peut tricher sur la balance. C'est un lave de la Torah. On a un autre sujet, c'est quand deux parties s'entendent sur une vente. Vous voulez acheter un appartement. Non, pas vous avez entendu que quelqu'un est en train de faire une offre sur un appartement. Vous n'avez pas le droit de surenchérir. Vous n'avez pas le droit de vous mettre au milieu de ces deux parties qui sont en négociation et dire « Non, 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 je le veux moi-même. » Et entrer au milieu. Il y a une transaction qui est en cours. Certains posent ce qu'ils me disent, c'est uniquement si la transaction est fermée qu'on ne peut pas surenchérir. Mais beaucoup disent que même si la transaction n'est pas conclue à 100%, on ne peut pas venir et se mêler là-dedans. Il y a une exception là-dedans qu'il faut étudier en détail. C'est si en fait cet objet est unique. Si c'est une œuvre d'art, par exemple, absolument unique, et que si la personne achète, vous ne pouvez pas l'acheter. Là, effectivement, il y a des exceptions. Pourquoi ? C'est qu'en fait, pourquoi cette notion est importante ? C'est que je ne dois pas vouloir ce que l'autre est en train d'obtenir. Si je veux quelque chose, va la chercher ailleurs. D'accord ? Voilà, c'était quelques sujets de autour de Rochelle Mishpat. Ce sont les sujets du monde des affaires dont je vous ai parlé. Et je vais finir avec une Gemara. Que j'ai cité à d'autres occasions, à d'autres conférences, certains ont entendu. Il y a un ange, dans la Gemara raconte qu'il y a un ange qui est responsable des grossesses des femmes, donc de Hérayon. Et il s'appelle Laila. Et avant la naissance, il amène l'embryon devant Dieu et il lui demande Ribono shel olam, tipazo mate alea, gibor o chalash. Cet embryon, qu'est-ce qu'il va être? Gibor o chalash, est-ce qu'il va être fort ou faible? Chacham o tipesh, est-ce qu'il va être bête, sage ou bête? Ashir o ani, est-ce qu'il va être riche ou pauvre? Là, on est avant la naissance. Alors, la Gemara demande, Ve'elu racha o tzadik, et il ne va pas demander est-ce qu'il va être un racha ou un tzadik. Il fait non, loka amark de Rabbi Chanina, d'amar Rabbi Chanina, kolbi de shamaim, chutz mirat shamaim. Tout est déjà contrôlé par le ciel, à cause, et dans, entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. C'est-à-dire que dans ce monde, tout a été défini à l'avance. Notre fortune est définie à l'avance. Alors je ne vous parle pas qu'il faut évidemment prier, puis évidemment faire les mitzvot pour obtenir cette fortune, ou en tout cas ce qui nous est attribué pour l'obtenir. D'accord, c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on demande la parnassa, etc. Ce n'est pas pour rien qu'on le fait. Mais en tout cas, là, ce qui est prévu pour nous, c'est déjà prévu à l'avance. Il y a une seule chose qui n'est pas prévue à l'avance, c'est est-ce qu'on va avoir la crainte de Dieu ou pas la crainte de Dieu. Est-ce qu'on va être quelqu'un de droit, de juste, de shomer mitzvot, quelqu'un qui va faire les mitzvot, ou quelqu'un qui ne va pas respecter ces lois-là. C'est la seule chose. Donc tout ce qu'on va faire, on va mettre des efforts, on va mettre notre cerveau en permanence à essayer de trouver les meilleures combis dans le monde des affaires, à essayer de faire plein de choses, etc. Et au final, toute la fortune qu'on va avoir, bah, finalement, a été, avant même qu'on naisse, a été déjà définie. Et la seule chose qui, par contre, sur laquelle on ne met pas assez d'efforts, est-ce qu'on va être droit? Est-ce qu'on fait attention à ne pas voler, à ne pas froisser, à ne pas faire ci, à ne pas faire ça? Ça, effectivement, c'est la seule chose, finalement, que l'on contrôle. Donc comment faire pour y arriver? Comme j'ai expliqué, le monde des affaires est complexe. On ne peut pas se dire que c'est ça le centre de la vie. Et moi, je me suis en plus rendu compte qu'il y a une chose, c'est que tout ce que l'on prévoit, tous les plans des sociétés... Moi, je suis donc associé de 350 entreprises. D'accord? J'investis directement ou indirectement dans 350 entreprises. Et ce qui est impressionnant, c'est que la vie des entreprises ne se passe absolument jamais, jamais comme prévu. Jamais. Donc moi, au début, j'ai été chercher dans les livres des sociologues, trucologues, plein de trucs comme ça. J'ai été chercher, est-ce qu'il y a une explication? Alors évidemment, les gens vont dire, oui, bah, parce qu'il y a des circonstances extérieures, etc. Je fais, ok, je veux bien, pour qu'il y ait plein de cas où ça ne se passe pas comme prévu, d'accord. Mais que ça ne se passe jamais comme prévu. Jamais. Alors des fois, ça se passe mieux que prévu, des fois, ça se passe mal, mais ça ne se passe pas comme prévu. Et clairement, c'est là où je me suis rendu compte, non, il y a une force extérieure qui contrôle finalement tout ça. Il y a une force qui, effectivement, qui est HM, pour, si vous avez compris, qui est là, en fait, à régir, finalement, le succès ou les échecs d'une entreprise, la signature ou non d'un contrat, etc., etc. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle une ishtadlut, c'est-à-dire qu'on doit rentrer, faire son action. Bah, on ne peut pas signer un contrat si on n'envoie pas le contrat au client, par exemple, hein, tout bête. Ou si on ne rencontre pas le client, si on n'a pas un produit à vendre, etc. Donc, on doit faire tout ça. Mais savoir que, finalement, notre résultat, et entre les mains de Dieu. Et ça, je l'ai compris en étudiant. Et donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il est super important, il est très important pour pouvoir vivre une vie de juif parfaite et complète, de se fixer des heures d'études tous les jours. Comme j'ai expliqué, on a réussi, chauffeur de taxi, il a réussi fixer sa demi-heure. Je pense vraiment qu'il va le faire. Et n'importe qui d'entre nous, à n'importe quel âge, doit se fixer des moments où il va se dire, voilà, chaque jour, entre 10h et 10h15, je vais étudier. Ou entre 8h et 8h15, je vais étudier. Ou entre 10h et 11h, etc., etc., etc. Et donc ça, je finis, là j'ai terminé, après c'est toutes les questions. Et le but de cette étude, ce n'est pas de se prosterner devant Dieu, d'accord? Le judaïsme, c'est pas, Dieu n'attend rien de nous, d'accord? Il faut savoir que Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu nous a mis dans ce monde uniquement pour se parfaire, pour devenir des gens les meilleurs possibles. Toutes les mitzvot qu'on nous donne, tout ce qu'on nous donne, sont là pour que nous devenions des gens meilleurs. Et l'étude est là pour ça. Et les actions qui vont sortir de ces études sont là pour ça. Donc, les idolâtres pensent qu'il faut amener, enfin penser, ou certains, les bouddhistes, etc., continuent à le faire ça, amènent des offrandes à leurs statuettes en disant j'amène des offrandes et je donne et il va me donner quelque chose en retour. Non, 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 Dieu ne veut rien en retour. Toutes les mitzvot, le Shabbat, le Kippour, etc., tout ça et les lois qu'on est là, tout ça sont là uniquement pour nous parfaire nous-mêmes, pour que nous devenions des gens meilleurs à notre mort qu'à notre naissance. Voilà, bonne chance à tous. Je laisse les choisir les questions, sinon après... Ah non, bon. Je vais commencer comme ça, on va le faire comme ça.
Pour
vendre.
Faire mieux voir. Et surtout qu'il y a une obligation de faire de la RSE. Il y a un budget associé à la RSE qui est obligatoire. Mais du coup, ma question, c'est là, je comprends dans ce que vous avez dit comment on peut faire des affaires. Mais je ne comprends pas comment on peut réussir dans les affaires. Comment on fait face à d'autres acteurs qui vont être beaucoup plus agressifs. Enfin, j'ai du mal à
je comprends.
Faire des affaires, je comprends. Réussir dans les affaires, je vois mal.
Ouais. C'est ce que j'ai expliqué. Ouais, ah ouais, donc la question c'est, on parle de beaucoup de business ethics dans les grandes écoles de commerce, etc. Et au final, on se rend compte que les entreprises qui font effectivement de l'éthique font souvent ça bah, finalement pour faire du marketing et pour se montrer, pour faire les beaux. Et donc effectivement, aujourd'hui, on a compris quelle était en fait l'éthique qu'on devait avoir dans les affaires. En tout cas, on a compris, on a donné des petites introductions à ces choses-là. Maintenant, effectivement, on est en train de se battre face à des entreprises qui n'ont effectivement sont sans foi ni loi, d'accord, qui sont sans scrupules. Donc comment arriver à se battre contre ça? Ça en fait c'est de l'illusion que les autres entreprises qui sont sans foi ni loi vont nous battre. J'ai vu en fait dans mon expérience, il n'y a pas les gens agressifs en marketing, les menteurs, les tricheurs ne réussissent pas mieux que les gens droits. Il n'y a pas ça. On a l'impression comme ça parce que ça a l'air logique de dire ils vont réussir mieux. Ils font plus de tricks, donc ils vont mieux s'en sortir. Mais au final, ça ne marche absolument pas comme ça. Après, je vais devoir critiquer, donc je ne suis pas là pour ça. Ah. Non, après, vous savez, les grosses boîtes ne sont pas tous des boîtes faisant des choses illégales, pas propres, etc. D'accord. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de boîtes, dont moi je conseille de grosses boîtes, font des choses de manière très honnête. Moi, il y a même certaines fois où je dis des choses disant non, on ne peut pas faire ça, on ne va pas stocker les informations de nos utilisateurs dans la base de données, ces problèmes de privacy, ces problèmes de choses. Il y a des réactions dans le monde qui font que les gens ne sont pas tous des gens sans foi ni loi. Il faut être très, très clair. Maintenant, se dire oui, mais on se bat face à des gens qui sont très, très forts et qui vont mettre le bulldozer, ça, de toute façon, non. Parce que comme j'ai expliqué, ce n'est pas ça qui va faire le succès de quelque chose. Et très, très souvent, les gens qui ont fait le bulldozer, les Enron, les grosses boîtes, toutes les grosses startups qui sont tous en train de couler en ce moment, les unes après les autres. Pareil, je ne vais pas citer de nom parce que je connais tous les patrons de ces boîtes. Mais il y a des grosses boîtes qui valaient des milliards il y a un an et aujourd'hui qui valent absolument zéro, qui ont écrasé tout le monde sur leur passage, qui ont écrasé effectivement toute la concurrence ou essayé d'écraser toute la concurrence et qui sont en train de mourir juste aussi vite et avec plus d'employés que les autres, mais en tout cas qui meurent aussi vite. Donc je pense qu'il faut avoir la émouna, on doit avoir Dieu en tête. Dieu nous aide dans nos affaires, d'accord? Dieu nous aide dans nos affaires, Dieu nous donne notre parnassa. Dieu fait réussir une entreprise et pas une telle autre. Et au final, est-ce que cette entreprise va mieux réussir qu'une autre? Ça a été fixé comme j'ai expliqué avant notre naissance. Et c'est ça que j'ai expliqué. C'est-à-dire qu'en fait, est-ce que la personne va être riche ou pas riche? Ça a été expliqué. C'est-à-dire que finalement, ça n'a aucune importance si notre prévu va réussir ou pas. Mais nous, notre objectif là-dedans, c'est de rester droit et de rester cachère à 100%. Et au final, si on devait réussir, on réussira. Et si on ne devait pas réussir, on ne réussira pas. C'est déconnecté. Mais ne pas se dire, c'est une guerre et il faut se battre contre ça. C'est vraiment, vraiment, quand vous vous rendez compte à quel point ces choses n'ont aucune importance. à quel point des gens extrêmement agressifs peuvent tomber en une seconde et tombent en permanence en une seconde. Donc, il n'y a pas ça. Donc, nous, en fait, finalement, la seule chose qu'on doit faire, c'est de rester droit. Et ça, c'est j'espère, ce qui est la recette numéro un pour dire, effectivement, si on a réussi. Alors, on peut avoir fini sa vie pas riche, mais on aura réussi à être droit. Et donc, on aura réussi sa vie. Je continue comme ça. Ouais. Super question. Khazak, super question. Comment faire face? Donc la question c'est comment faire face au stress, à la peur. Parce que même si on dit Dieu contrôle tout, on a la Emouna, on a tout ça. Bah effectivement au final c'est plus facile à dire qu'à faire tout ça. Hein. C'est, on va résumer ça comme ça. La caméra s'est arrêtée? Il n'y a plus de live? Bon, allez, je parle. Je peux dire des bêtises. Hein. J'enregistre toujours. En fait, l'étude a cette importance-là. C'est qu'en fait, l'étude, c'est tous les jours. Alors moi, j'étudie du moussard une fois par semaine. D'accord? C'est d'ailleurs le mardi matin, ce matin. D'accord? J'étudie effectivement des lois, des sujets qui tournent autour de la Emouna, autour du Bitapron, autour de la Hashgacha Pratit, etc. Et c'est une fois par semaine, je me plonge dedans avec une Chavruta, avec ma Chavruta, avec la personne avec qui j'étudie, pour remettre au goût du jour. Et quand vous repassez ça pendant des années et des années, ça ne veut pas dire qu'à un moment vous n'allez pas avoir un stress, mais quand vous allez avoir un stress, vous allez avoir une réaction qui est en général mauvaise. Vous dire, la semaine dernière, j'ai eu une super mauvaise nouvelle dans mes affaires. Super mauvaise. J'ai des gens qui veulent pas respecter leurs engagements, c'est quelque chose qui va me causer une perte, etc. Et au final, au début, je dis « Oh mince !» Et après, je dis « Ah, non, en fait, là, j'ai l'épreuve de Yaakov avec Lavan. » Je dis « Comment tu vas être, toi, au milieu de tout ça ?» Ça m'a pris, quoi, un quart d'heure à me remettre d'aplomb comme ça. Et donc, je me suis assis, je me suis allongé, je me suis mis sur un fauteuil, comme ça, je me suis assis, comme ça, j'ai fermé les yeux. Je dis « Il ne faut pas que mon cœur me porte. Il ne faut pas que mon cœur me porte et me dise « Il se passe des choses mauvaises autour de moi. » Non, en fait, Dieu est là. C'est Dieu qui est en train de m'envoyer cette épreuve-là. Il est juste en train de me tester. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on est dans un jeu vidéo. On a en permanence plein de niveaux. Le premier niveau, il est facile, d'accord? Et voilà, Mario Bros, d'accord? On va prendre Mario Bros, pour ceux qui connaissent. Mario Run, maintenant, ça va. Et le premier niveau est d'une certaine manière. Le deuxième niveau est plus sombre. Le troisième niveau, il y a les fleurs qui poussent. Le troisième niveau, il y a les champignons, etc., etc. Et en fait, on a à chaque fois une épreuve avec un environnement différent, avec des choses différentes. Mais l'épreuve est toujours la même. C'est est-ce que je vais réussir à passer ça en restant le même du début à la fin? Et ça, c'est ça l'épreuve. Quand il y a Yaakov dans la paracha de cette semaine, je crois que c'est cette semaine. Je m'embrouille maintenant. Ouais, dans cette semaine. Quand Yaakov va rejoindre Esav, donc son frère, et avant de rejoindre Esav, il se bat contre l'ange d'Esav, d'accord? Il se bat contre un ange, et donc il a un combat. On dit qu'il a un grand combat pendant toute une nuit contre l'ange. Et après, il remporte le combat contre l'ange. Bon, il boite quand même, d'accord? Ça aussi, c'est un super sujet. Et il remporte cette guerre, et c'est à ce moment-là qu'on le nomme Israël. Quand l'ange part, il y a Yaakov qui dit « J'ai vu Dieu à cet endroit-là. » Je ne me rappelle plus exactement du passouk, mais en fait, j'ai vu Dieu à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, où tu as vu Dieu? Tu as vu un ange. Tu as vu un ange, tu as vu quelqu'un avec qui tu t'es battu, c'est l'ange d'Esav, etc. Où il n'y a pas de Dieu là, Dieu n'est pas intervenu là. Il fait non. Là, l'épreuve qui a eu lieu là, ce combat-là, c'est une épreuve de Dieu. Donc en fait, quand j'ai mon client qui ne veut pas me payer, ou j'ai ci qui ne veut pas ci, ou n'importe quoi qui arrive, c'est une épreuve de Dieu. Et au final, évidemment, c'est super dur. Mais si on étudie régulièrement, comme je l'ai dit, moi j'ai fixé ça une fois par semaine, plus des livres que je lis en dehors de mes heures d'études fixes, à ce moment-là, effectivement, les choses se passent mieux.
Ouais. Donc pour juste faire le résumé, c'est en gros se fixer des heures d'études pour... C'est comme la salle de sport, en fait.
Ouais, pour dire comme ça. On va dire de la Emouna, tout à fait. Exactement, exactement.
C'est...
Voilà, c'est effectivement, on doit étudier, on doit repasser, on doit relire. Il y a un livre qui s'appelle le Sifter Chaim, qui est un livre magnifique sur la Emouna et la Hashgacha, qui a été écrit par un rabbin qui s'appelle Rav Chaim Freelander, qui est absolument magnifique sur ces sujets. Et je parlais avec Rav Ben Shetrit il y a quelques mois de ça. On parlait de ce livre-là. Il disait que lui, le repassait, que le livre était complètement usé tellement il a été repassé dessus. Et c'est des sujets comme ça, en fait. Il faut revenir. C'est des vrais gros sujets. C'est des sujets les plus complexes. Parce que c'est des sujets qui sont complètement pas naturels. Ils sont complètement invisibles. Mais quand on arrive à rentrer là-dedans, à la fin, on joue. On joue avec ça. C'est-à-dire quand il nous arrive un événement, on dit « Ok, j'ai compris la partie. » Maintenant, je vais me mettre à jouer. Et voilà, on arrive à ce genre de choses.
Alors, moi, j'ai deux petites questions. Premièrement, est-ce que l'obligation d'études, ça concerne aussi les femmes?
Mm-hmm. Okay. Oui, mais je vais en parler.
Et deuxième question, vous avez donné l'exemple tout à l'heure de Yaakov qui a travaillé pour la vanne et vous avez dit que... J'ai eu le sentiment de comprendre ça comme un exemple positif duquel il faut s'inspirer, parce que c'est un peu évident, mais je trouve pas que ce soit forcément dans le cadre du travail. On pourrait, quelqu'un qui regarde ça de manière froide, objective, sans rapport avec la religion, on lui raconte objectivement l'histoire qu'on lui a promis quelque chose, il a travaillé 7 ans, on lui a pas donné, au final il a continué à travailler 7 ans. Ça paraît pas très juste et ça paraît pas très. Ça paraît un peu comme une attitude de victime au travail. Hein,
ouais.
Si on parlait d'un cadre uniquement professionnel, et donc c'est.
C'est victime, ouais. Première question, donc, c'était est-ce que les femmes doivent étudier ? Les femmes n'ont pas le choix d'étudier parce que les femmes ont énormément de lois d'Alachot, quasiment toutes hein, d'ailleurs, hein, et si elles ne les utilisent pas, elles ne peuvent pas les appliquer. Donc les femmes doivent aussi étudier, et c'est une obligation pour les femmes d'étudier la halakha qui les concerne. D'accord ? Alors on n'étudie pas dans le Talmud, les femmes n'étudient pas dans le Talmud, en général elles étudient plutôt la halakha, les lois les unes après les autres, ou étudient des livres de Moussar, de Emouna, de Foi, etc. Mais les femmes ont une obligation d'étudier clair et net. Donc la deuxième question c'était... Ah oui, effectivement, est-ce que Yaakov a été une victime ? Yaakov a eu le droit à une vie différente d'Israël, à une vie différente d'Abraham. D'accord ? Abraham était le maître du Moyen-Orient. D'accord ? Il était là, il a ramené le monothéisme au Moyen-Orient, il était respecté, il était riche, il était bien entouré. Il a vécu sa vie, il a réussi sa vie, il a eu des épreuves différentes qui n'étaient pas les épreuves de la vanne. D'accord ? Yitzhak était quelqu'un de plus renfermé. Et il a été expulsé par les Philistins, etc., Philistines, etc., en permanence. Il était mal aimé, etc. Il a réussi sa vie, il a passé sa vie, il a réussi sa vie. L'épreuve de Yaakov, ça a été de passer à travers la vie de Lavan. La vie et les horreurs de Lavan. Moi, là où on parle des 7 ans, mais ça c'est un problème qu'a fait Lavan. C'est un... Mais on dit qu'il y avait des milliers de manigances. À la fin, il faut savoir que Yaakov est parti parce qu'il pensait que les enfants de Lavan et Lavan allaient le tuer, à tel point. D'accord ? C'est pour ça qu'à un moment, il dit la face de Lavan a changé. Et en fait, là-bas, c'est clair qu'en fait, ils ont voulu le tuer parce qu'ils étaient en train de devenir jaloux de sa richesse. D'accord ? Il était en train de s'enrichir à côté de Lavan. Donc, et l'épreuve de Lavan, l'épreuve de Yaakov, ça a été, pendant 14 ans, ça a été Lavan. Et il a été victime, enfin 20 ans. Il a été victime, peut-être, mais sa seule épreuve, ça a été de survivre de ça et de rester à sa droiture. Après, Yaakov a eu une autre épreuve après ça. Yaakov a eu la perte de son fils Yosef, d'accord, qui était le fils qu'il attendait et qu'il aimait le plus, enfin qu'il aimait, bon ça c'est un sujet, mais en tout cas à qui vous l'avez voué le plus grand rôle dans les 12 tribus, et il perd son fils pendant des dizaines d'années. Yaakov a été... a perdu la prophétie à ce moment-là, n'a plus eu de lien avec Dieu pendant toute cette période. Pareil, c'était une autre épreuve. Donc en fait, je ne dis pas... Il y a des moments où on va se retrouver victime, il y a des moments où on va se retrouver au contraire, nous, les patrons, nous, les responsables, et nous, avec des gens autour qui on pourrait transformer en victime, et là, notre épreuve, ça va être de la même manière, de ne pas en profiter. Vous voyez ? Donc en fait, c'est ça en fait l'histoire. C'est qu'à chaque partie de la vie, on doit réussir à réussir sa partie. D'accord.
Deux questions aussi. Vous avez dit que vous êtes investi dans plus de 350 sociétés. Vous avez investi dans plus de 350 sociétés. Et d'un côté, vous expliquez que la parnassa doit juste servir pour le logement, s'habiller, etc. Donc, où est-ce que vous trouvez toute cette motivation pour faire autant et pas vous limiter au minimum et avoir plus de temps libre pour étudier? Et deuxième question, c'est pourquoi, surtout en Israël, dans tous les contrats, la plupart des contrats entre les sociétés, aussi entre particuliers, on fait appel à des causes d'arbitrage, à des experts, en plein de domaines. Pourquoi on ne pourrait pas, c'est pas plus généraliser le fait de se tourner vers le Beit Din, par exemple, si tout est expliqué? Pourquoi ce n'est pas plus généralisé dans les contrats d'achat en Israël?
Très bonne question. Pardon ? Ah, vous avez entendu la question. Donc la première question, c'était... Ah oui, la motivation. Alors, quelle est ma motivation ? Pourquoi j'ai investi dans des centaines de sociétés alors que je suis en train de dire, finalement, Dieu envoie tout, je n'ai pas besoin de faire grand-chose, etc. Ah. Alors moi, en fait, depuis que je travaille, en fait, je n'ai pas d'attirance pour l'argent. D'accord ? C'est-à-dire que ce n'est pas l'argent qui me guide. Et j'aime m'amuser dans mon travail. D'accord ? Moi, je suis un geek. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui aime avoir les derniers appareils, les derniers trucs, etc. D'accord ? C'était comme ça, en tout cas, que j'étais. Et en fait, mon objectif, c'est de faire des choses originales. D'accord ? Très souvent, ce que je dis, c'est que quand je vois tout le monde aller à gauche, je vais à droite. D'accord ? C'est un peu ça mon objectif. Quand en 2010, en fait, avec Xavier Niel, on a vu que le marché du financement était en train de s'écrouler puisqu'on était après la crise de 2008. Et on a vu qu'il y avait plein de super startups qui se créaient. On s'est dit, tiens, une idée, on va prendre 10 millions d'euros, ceux de Xavier Niel, je précise, hein, et on va les investir dans 100 sociétés, une par semaine. Et Xavier me fait, t'es capable, Jérémy? Je fais, allez, go. Moi, c'était un challenge. Est-ce que ça m'a empêché d'étudier? Je lis 4 heures, 5 heures par jour en investissant dans 300 boîtes. Non, ça ne m'a pas empêché. Mais ça a été quelque chose de fun. Et à un certain moment, 5 ans après, j'avais investi dans plus de 350 sociétés. À partir de là, effectivement, je commençais à voir que ça commençait à peser, la gestion de toutes ces boîtes commençait à peser dans ma tête. Et je voyais qu'effectivement, ça commençait à me prendre trop de temps. Et là, j'ai décidé de quitter. Et pour d'autres raisons aussi. Mais en tout cas, j'ai décidé de quitter et de faire autre chose. Et là, maintenant, je fais des investissements beaucoup plus gros et beaucoup plus loin. J'ai fait que 2 investissements l'année dernière. 3. Cette année, comparé à 94 en 2014, juste pour comparer. Donc voilà, donc en fait, effectivement, le curseur, je le règle en fonction de mon étude, et pas seulement mon étude, le temps que j'ai avec mes enfants. Savoir que pendant quasiment toutes les années où j'étais chez Kima, je déjeunais avec mes enfants quasiment tous les jours. Je voyageais pas, je faisais tout en vidéoconférence, donc j'ai une caméra exactement comme ça, j'ai un grand écran qui fait cette taille, je suis en vidéoconférence. C'est qu'en fait, mes critères de choix de travail ou pas de travail, c'est est-ce que ça va m'empêcher d'avoir une vraie vie de famille ou est-ce que ça va m'empêcher d'avoir effectivement mon étude. Et c'est pour ça que je ne suis pas milliardaire aussi. Mais c'est pour ça que j'en ai absolument rien à faire. C'est qu'au contraire, je réussis ma vie parce que je mets l'important avant l'argent qui est juste un outil. Donc ça, c'est comme ça que j'ai fait. Deuxième question, je commence à fatiguer. Désolé. C'était...
Pourquoi on a des clauses d'arbitrage?
Ah oui, pourquoi en Israël, finalement, on n'est pas en train d'utiliser la loi juive? Israël n'a pas été fondé comme un État juif religieux, d'accord? Israël a été fondé comme un État pour les Juifs, mais les lois commerciales du pays sont les lois britanniques, d'accord? On a gardé les lois britanniques comme base. La plupart des fondateurs de l'État d'Israël n'étaient, un, pas pratiquants, mais pas érudits, et surtout s'opposaient en fait au fait que la Torah régisse l'ensemble de ces lois-là. Donc, au final, effectivement, Israël n'a pas été créé, au final, pour être un État de Juifs pratiquants. Et même au contraire, c'est qu'il y a même eu énormément de combats au début. Il faut savoir que Herzl, en 1893, avant d'avoir eu l'idée de l'État juif, il disait, pour éviter les pogroms, maintenant on va aller convertir, pour qu'il n'y ait plus de pogroms, on va convertir tous les juifs au christianisme en une seule journée, et hop, on aura résolu le problème. Bonsoir. Vous attendez depuis une heure. Et donc voilà, donc il y a eu ça. Maintenant, on n'est pas là pour critiquer ce qu'Israël maintenant. Eh bien, maintenant, aujourd'hui, quand vous faites un contrat, Vous avez parfaitement le droit, et d'ailleurs le devoir même, de décider, de définir qu'en cas de conflit, ce sera le Beit Din de Rav Karelitz à Bnei Brak ou du Badass à Yerushalayim, ou de, etc., qui vont aller régir les conflits.
Ça ne se fait pas beaucoup. Pourquoi ?
Ça se fait beaucoup. À Bnei Brak, ça fait que comme ça. Et chez les gens pratiquants. Pardon ?
Ça ne se fait pas assez.
Ça ne se fait pas assez ? Ouais, ouais, tout à fait. Il n'y a pas assez de gens Shomrim Shabbat, pas assez de gens qui mangent cachère, il y a plein de choses qui ne sont pas assez. Mais vous avez raison.
Non, mais au point de vue. C'est... En dehors du point de vue de la pratique de la religion, au point de vue de l'efficacité.
L'efficacité, oui, ouais, tout à fait. Non, mais en fait, les tribunaux ne disent pas c'est plus efficace. Ils vont dire oui, mais c'est une loi. Enfin, voilà, les juges ne comprennent pas très souvent les lois juives, d'accord ? Ils ne se rendent pas compte de l'efficacité. Mais voilà, mais en général, voilà, quand effectivement on commence à rentrer dans le judaïsme, on commence à se rendre compte à quel point les choses sont encore mieux traitées et ont 2000 ans de traitement, à ce moment-là. On a 2000 ans d'histoire et d'expérience dans ces sujets-là, effectivement, à partir de ce moment-là, on peut le faire. Mais donc, les clauses d'arbitrage, les clauses qui sont dans les contrats, qui disent qu'effectivement, en cas de conflit, il y a un Beit Din qui a été régi, sont valables en Israël. C'est-à-dire que le juge va dire, bah, allez au Beit Din, c'est écrit dans le contrat. Et le Beit Din a le pouvoir d'appliquer la sentence, donc même d'envoyer un huissier, etc., si la personne doit payer pour aller faire appliquer le sujet. Mais il faut que ça soit effectivement précisé et accepté par les deux parties depuis le début.
Deux dernières questions.
C'est une super question. Pourquoi vous rigolez ? Hein ? C'est une précision. Non. Vivre dans la crainte de Dieu, Dieu est bon, Dieu est et veut notre bien. Ça, c'est la première chose. Dieu veut notre bien en permanence. Et comme je l'ai expliqué, Dieu n'attend rien de nous. C'est-à-dire que Dieu ne nous donne pas toutes ces lois-là pour sa satisfaction personnelle. Il n'a pas besoin de tout ça, d'accord ? Donc, au final, avoir la crainte de Dieu, c'est quoi ? Avoir la crainte de Dieu, c'est de dire... Est-ce que je suis finalement en train de respecter les règles qu'il m'a données pour mon bien ? C'est en fait de la même manière qu'on craint son père. D'accord ? Je crains mon père, je n'ai pas une angoisse quand je rentre chez moi quand j'ai mon père. D'accord ? Pas certain, oui, je ne sais pas. Bon, en tout cas, quand je rentrais mon père, je craignais mon père. J'avais énormément de respect pour mon père, j'ai toujours énormément de respect pour mon père. Et c'était une crainte. C'est-à-dire que quand mon père rentrait, effectivement, il y avait une ambiance particulière. Ce n'était pas comme dit... Un passant était là. Mais au final, je sais que mon père voulait mon bien et je sais que je devais l'écouter pour faire certaines choses. Donc non, il n'y a absolument aucune angoisse. Au contraire, c'est qu'on se sent finalement aimé, mais on a en permanence une notion de dire « Papa, il faut que je t'écoute. Papa, il faut que je t'écoute. J'ai compris, je sais qu'il faut que je t'écoute. »
Une crainte révérentielle.
Une crainte révérentielle, on va dire ça comme ça. OK. Qui choisit la dernière ?
Je suis venue
spécialement
de
Paris pour vous. Oh là là.
Tout à fait.
Si tout marche bien,
la question est très claire.
Et en fait, quand on va avoir la séduction entre guillemets des investisseurs, elle va être sur plein de paramètres. Les chiffres, c'est un des paramètres. Et donc, à quel moment on peut avoir une attitude qui est différente quand on est sur le chemin à l'île que vous présentez, qui est différente par rapport à quelqu'un d'autre. En gros, si je suis ultra honnête à ce moment-là, dans le cadre de mon business plan, je risque de ne pas avoir mes investisseurs. Où je mets la limite et c'est quoi le curseur pour que j'ai mon investisseur?
Très bien.
Ouais.
Donc la question c'est comment je présente ma startup aux investisseurs en étant à Ishma Amin, sachant que finalement je dois me projeter et projeter des choses. Bon, il faut savoir que les investisseurs ne sont pas dupes, d'accord ? Les investisseurs savent très bien que quand on fait des projections, que les projections peuvent se tenir ou peuvent ne pas se tenir, etc. etc. Donc il n'y a absolument aucun problème de raconter une histoire, d'avoir une ambition, d'avoir une vision, et de mettre qu'on va faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 4 ans. En général, ça passe mal parce que ce n'est pas très vrai. Mais on a moins de chances d'avoir un investissement, mais ce n'est pas un problème de Yashrut, ce n'est pas un problème de Emouna. Par contre, moi, je vais vous raconter une histoire qui m'est vraiment arrivée. C'est qu'en fait, moi, j'ai eu un start-upper qui est venu me voir. Il m'a présenté une idée. Je lui ai dit, regarde, à partir du moment où tu feras 7000 euros de chiffre d'affaires mensuel, j'investirai dans ton projet. Parce que ça prouvera qu'on a effectivement assez de clients, etc. Un jour, il arrive et il me dit, Jérémy, c'est bon, on est à 7000 euros. On a des centaines de clients, etc., qui payent chacun un petit abonnement de 30 euros, etc. On a 7000 euros. Super, etc. Je crois en ton projet, etc. On investit dans sa boîte. Le 2 mois après, après l'investissement, il m'envoie un reporting. Tout se passe super bien. On est maintenant à 7500 euros, etc. Quelques mois après, on est à 8400 euros. Très bien. On est à 10200 euros, etc. Et un jour, il m'appelle. Il me dit, l'investissement avait lieu en juillet. L'année passe jusqu'en septembre d'après. En septembre, il m'appelle en me disant, Jérémy, regarde, j'ai passé un mauvais été, je suis malade, je mets trop d'efforts dans mon boulot, etc. Jérémy, voilà, je voudrais passer la main à quelqu'un d'autre. Alors je fais, ah ok, très bien, mais regarde, en plus, tu es profitable et tout, donc il y a combien en banque? Il me dit, il y a 30 000 euros. Moi, je fais les comptes en 2 secondes, je dis, c'est pas possible. Il était arrivé à profitabilité 3 mois après notre investissement. Ça colle pas du tout. Je fais, mais tu veux pas avoir 30 000 euros? Il fait non, bon, il y a eu quelques faux frais. Truc. Je fais non, il n'est pas possible que tu aies 30 000 euros. Il y a 30 000 euros. Bon. Et je passe ce sujet et je vais chercher un repreneur pour la société. Parce qu'effectivement, je dis regarde, la société grimpe, les chiffres d'affaires grimpent, les clients grimpent, c'est un beau projet, etc. Je trouve un repreneur. C'est rare qu'on trouve si facilement. Je trouve 2 personnes, une équipe de 2 qui veulent reprendre la société. Et on rentre dans... et en fait, avant de faire la société, on est à la signature, le passage de pouvoir. Cet entrepreneur amène le bilan de l'entreprise, qui ne m'avait jamais présenté encore à ce moment-là. Et il amène, moi je ne suis pas là, j'étais en Israël et cette rencontre a eu lieu à Paris. Et l'avocat m'appelle, me dit, Jérémy, on a un problème, il n'y a plus rien dans la boîte. Je dis, mais comment c'est possible? Déjà, même 30 000 euros, ce n'était pas possible. À un moment, j'ai dit, moi 30 000 euros, ça suffisait pour avancer, on était rentable, on était triste, etc. Mais pourquoi il n'y a plus rien dans la boîte? Il me dit, Jérémy, il y a des lignes françaises des jeux quasiment tous les 5 lignes. Il m'a dit, le garçon a payé des voyages, etc. Et au final, il n'y a pas grand-chose. Mais je lui dis, mais combien il faisait de chiffre d'affaires en février dernier? Je savais qu'il faisait 9000 et quelques. Il faisait 70 euros. D'accord. Et donc, en fait, ce garçon-là avait effectivement fait 7000 euros de chiffre d'affaires quand il m'a contacté, mais il n'avait pas fait en vendant son produit. Il avait vendu en se vendant en tant que consultant à une autre entreprise. Voilà. Et donc, au final, cette société a été plantée. Il nous a menti sur toute la ligne. On a porté plainte pénale. C'est Xavier Niel qui a porté plainte. D'accord. Ce garçon est juif, malheureusement. Ouais. Non, c'est pas Rosenberg. Non. C'est pas Rosenberg, c'est un autre celui-là. Et ce garçon effectivement a fait ça. On a porté plainte. Bon, la police met 3 ans. Là, ils nous ont. L'histoire a 3 ans. Ils m'ont contacté il y a un mois. Enfin, il y a deux, peut-être 3 mois pour me poser des questions sur l'affaire. Bon, c'est voilà. Donc au final, vous voyez, ça. Vous allez dire, ah, mais c'est énorme, c'est truc. Mais au début, à part le fait qu'il ait fait n'importe quoi après dans la boîte, au début, il m'a menti en me disant, j'ai fait 7000 euros. Il avait vraiment fait 7000 euros, mais il avait juste fait d'une autre manière. Donc voilà, effectivement, on s'est fait avoir.
Une question dans la question, est-ce que moi je peux ? Petite question, c'est mon fils qui est trop bien
autorisé. Ah ! C'est le papa de.
Mais dans votre organisation. Souvent majoritaire, vous avez un droit de regard sur les comptes
On a toujours un droit de regard sur les comptes, même si on est minoritaire.
Justement, pour
cas précis parce que c'est particulier de ne pas avoir les bilans avant de vendre une entreprise, bah, d'avoir les coûts.
On a quand on investit dans plein d'entreprises, on peut pas vérifier tout, on peut pas faire ce qu'on appelle des due diligence poussées en prenant un auditeur à chaque fois, ça nous coûterait quasiment le prix de l'investissement. Et de toute façon, on a besoin d'avoir confiance envers les fondateurs, parce que de toute façon, même s'ils veulent pas, et si un fondateur n'est pas droit et ils veulent pas, il va mettre la boîte au tapis et notre investissement avec. Non, j'ai jamais ma majorité. Non. Et ça changeait, hein. C'est pour les droits et le contrôle. Monsieur derrière. Et après...
Quel enseignement peut-on tirer du fait que Yaakov, ayant été lésé par la vanne, a utilisé ce fameux stratagème des brindilles dans la ruisseau pour pouvoir avoir des bêtes?
Très bonne question. Ah, donc la question c'est...
Est-ce qu'on peut considérer que c'était une attitude
droite? Très bien. Il y a la Gemara dit qu'il est bon d'être pernicieux avec les gens pernicieux. Alors, ouais, c'est fou de dire ça. En plus, on parle de Yaakov. D'accord ? Donc, au final, donc Yaakov, ce qu'a fait Yaakov, c'est qu'il a fait un stratagème pour réussir à avoir plus de bêtes tachetées que prévu. D'accord ? Mais il a fait quelque chose qui était 100% permis. C'était de une niche d'adlout. Il a fait en sorte à ce qui est. Pardon ? Non. C'est de la. Comment dire ? Oui, il est malin, mais il n'y a aucune interdiction d'être malin dans les affaires. La vraie question, c'est est-ce que je transgresse ou pas ?
Il avait su.
Laman
y avait pensé. On va dire, du moins, est-ce qu'il aurait accepté le deal ?
Est-ce qu'il aurait. Pardon ?
Il n'a rien fait malin, est-ce qu'il a fait jouer la génétique ?
C'était de la génétique avant l'heure. Mais effectivement, la vanne. S'il le savait, pendant ces années-là où les choses se passaient, on dit qu'il a changé le contrat plusieurs fois. Ah non, finalement, je vais prendre les tachetés, ah non, finalement, je vais prendre les rayés, ah non, je vais prendre ça. Et à chaque fois, ça va. À part, Yaakov a fait sa ishtadlout. Après, au final, il a reçu la bracha de Dieu et c'est Dieu qui remercie pour ce qu'il a reçu. Il est sorti riche de chez Lavan, d'accord ? Et c'est Dieu qui remercie, c'est pas son stratagème. Son stratagème, c'est sa ishtadlout. Mais il n'y a effectivement aucun problème, absolument aucun, d'être malin. Et est-ce que l'autre maintenant, s'il aurait su, il n'aurait pas accepté le deal ? Bah, de toute façon, il sait très bien qu'il a fait il fait face à un homme qui va faire en sorte à ce que les choses se passent comme prévu. Alors au début, lui, dans sa tête, il disait non, mais on n'aura pas autant. Mais de toute façon, voilà, ce qu'a fait Yaakov était 100% permis. Mais c'est une souga dans la Gemara, justement. C'est une question.
Intelligent.
Intelligent, ouais, malin, intelligent.
Non,
et...
malin, ça veut dire
brisé, ça veut dire quelque chose de malhonnête.
Là, c'est pas une question de malhonnête.
Ouais, c'est de connaissance et sage. Ouais, tout à fait.